Beurre FM, 18h, 20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Il est 18h et jusqu'à 20h, on est ensemble. Vous savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Vous l'avez compris, chaque semaine, chaque vendredi des 18h à 20h. Et ça s'intitule, c'est votre émission, votre magazine qui s'intitule Le Grand Déballage. On se dit tout, on se raconte tout, on clash tout. Ça, vous le savez. Au 01-58-43, je me mêle les pinceaux de Jérémy, tu vois, déjà. 53-48-3000, c'est ça, non? Je me souviens même plus, quelle honte.
01-53-48-3000.
Voilà. Heureusement que Jérémy est là! Bien joué, Lolo, quelle honte. Tu te rends compte quand même? Si Gemma m'entend, la directrice générale, elle va m'allumer. Elle va me dire, le mec, il est à l'antenne. Depuis des lustres, il est incapable de se souvenir du numéro de téléphone. Elle va me dire, Jérémy, il arrive à peine, il réalise l'émission, il connaît déjà le numéro par cœur. Pardon Gemma, c'est comme ça, c'est la vie. Tu sais, il y a des trous, c'est ce qu'on appelle des trous dans le cerveau. J'ai un trou, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Jérémy, ça va?
En pleine forme.
Bon, super. Jérémy qui réalise l'émission. Merci d'être avec nous. C'est parti, le grand déballage. Alors, les sujets qu'on va traiter et qui ont commenté et qui ont secoué la semaine, et ce sera commenté, vous savez, par les influenceurs et les influenceuses. Eh bien, premier sujet qui a retenu notre attention. Le 8 mars, c'était il y a quelques jours. Et quand on dit le 8 mars, le monde a célébré, eh bien, vous savez quoi? Cette avancée des droits des femmes. On en parle parce que c'est quand même à l'occasion de la 41e journée des droits des femmes. On va parler de plein de choses. Ça va balancer, je vous le dis. Hein. Clasher les clichés, la bataille de l'égalité. Il paraît que même il y a la guerre des sexes. Eh bien, on en parle. Second sujet, troisième plainte. Tariq Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une accusatrice âgée de 45 ans qui vit dans les Hauts-de-Seine de France. Eh bien, sa plainte a été déposée il y a quelques jours, mercredi précisément à Paris. Et c'est chaud pour le théologien. On en parle. Et enfin, troisième sujet qui a secoué. Hein, on veut parler football. Ça, ce sera tout à l'heure en toute dernière ligne droite de cette émission. Le PSG Real, le PSG Nasser El Khalifi, est-ce que vous avez encore vos chances? Non, je déconne, mais franchement, moi, je suis un grand supporter du PSG. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'étais, mais comment vous dire, scandalisé par le match face au Real. Bref, on en parle tout à l'heure et il sera commenté. Et puis mon invité pour démarrer cette émission, vous le savez, il s'agit de Hicham Nazal, acteur de cinéma, animateur de télévision. Et maintenant, c'est son premier roman avec Les Nuits Indomptables. Premier roman aux éditions Plon.
Beurre FM, 18h, 20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Avant de saluer mon premier invité, Hicham Nazal, je veux doublement faire un tour de table. Je vais commencer, tiens, par les femmes, parce que sinon on va me le reprocher. La journée des femmes, c'est aussi l'élégance,
c'est
paraît-il.
Gentil. Oui, c'est ça.
Sophia, bonjour Sophia Keloki, consultante en communication, rédactrice numérique chez RTL. Comment ça va?
Bonsoir Adid, bonsoir tout le monde.
Tout ça va bien, très bien. Du Qatar, t'as la classe internet, t'arrives comme ça, t'es noutoise, tu sais, j'aime bien. J'arrive, je descends, j'arrive à la radio BFM pour les grandes, les grandes gueules, le grand déballage.
Exactement, merci de me recevoir en tout cas Adid.
Ben, merci à toi. Tu vas nous raconter ce que tu as vécu là-bas dans le cadre de la journée des femmes.
Entendu.
J'espère bien. Mehdi Amala, il est responsable digital. Comment ça va, mon cher Mehdi?
Ça va très bien, Adil.
En forme?
Toujours, toujours.
Toujours. Ouais. Toi, t'es très présent, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Hein.
Ben, il faut.
Au taquet, le mec, hein. Pa, pa, pa! C'est le mec qui dégaine. Plus vite que son nom, c'est Lucky Luke.
Hashtag,
Lucky Luke Mehdi. C'est. Pa, qu'est-ce qu'il y a?
N'hésitez pas à tweeter d'ailleurs le hashtag LGD1.
Le mec, je l'ai vu avec Julie Déné que j'ai reçu la semaine dernière. Il est avec Stéphane Teki, il est avec Hicham Nazal, le mec. Il est sur tous les fronts. Mais quand il fait, il dort jamais ou quoi? 1h du matin, il est là. Midi, il est là. 13h, il est là. 14h, mais tu manges quand? Tu travailles quand?
Je travaille tout le temps.
Le mec qui travaille tout le temps. Un élu qui est avec nous, Sébastien Foy, c'est une première.
C'est une première dans cette émission, oui.
Dans cette émission. Bonjour, élu, Adil. Les Républicains du Bourget, le 9-3.
Bonjour Adil, oui.
Comment va Laurent Wauquiez?
Ah bah écoutez...
C'est chaud pour lui, hein, dites donc. Hein.
Bon, vous trouvez?
Ah bah oui, alors, attends.
Tout va bien, non? Tout va bien?
Bah, je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Hein. Bah, si tout va bien, tout va bien. Je ne suis pas là pour commenter, en tout cas. Ça se passe bien pour vous, du côté du 9-3?
Oui, bah écoutez, on aura l'occasion de développer, oui, mais ça se passe plutôt bien. Oui, ouais.
Si vous voulez vous mettre à l'aise, vous pouvez. Hein.
C'est vrai?
On se met à l'aise ici. Hein.
Ah ben, je suis très à l'aise, vous allez voir. Je suis très à l'aise.
Bon, super, c'est ce qui me rassure. Voilà, c'est parti.
Beurre FM, 18h, 20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Hicham Nazal, bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Merci. Tu sais, c'est un plaisir de te recevoir. Tu es acteur cinéma, animateur de télévision. Tu vas sortir ton premier roman, Les Nuits Indomptables, le premier roman, la poésie un peu brûlante, on va en parler. Comment ça va, mon cher Hicham Nazal?
Ça va très bien. Merci pour ton invitation. Je suis très heureux toujours d'être de venir sur Beurre FM. J'ai eu l'occasion à deux reprises de venir quand vous étiez là-bas, dans le 11e.
Rue Colonel Fabien.
Exactement. Maintenant, exact. Vous avez des grands locaux, magnifiques locaux. Merci pour l'invitation et je suis très content de parler de mon roman chez vous.
Oui, mais merci en tout cas. Merci d'être avec nous. On va commencer. Dis-moi, d'abord, on va commencer cette actualité à cinéma, où t'en es, télévision, où t'en es précisément. Je sais que tu étais sur France 2. C'était un des visages de la diversité, d'ailleurs, de la chaîne du service public. Je sais pas s'il existe encore la diversité au sein de France Télévisions. Je sais pas, on se pose des... Attendez, excusez-moi, je sais pas, ou alors j'ai perdu quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé?
Pour être tout à fait honnête, Adil, je dirais que la diversité a été une volonté politique à un certain moment qui est devenue un concept, bon. Au bout d'un moment.
Un concept. Bon, j'aime bien ce mot, pourquoi?
C'est devenu un concept, c'est-à-dire, vous parliez de parité tout à l'heure, je pense que, sincèrement, c'est mon avis en tout cas, je pense qu'il faut passer par des lois pour pouvoir imposer, non pas des quotas, mais imposer une meilleure représentation de la représentativité française. C'est passé par une loi pour l'Assemblée nationale pour les investitures lors de législatives, lors de communales et tout ça, etc. Je pense qu'il faut une réelle volonté politique pour pouvoir avoir des visages de la diversité, des visages du handicap aussi à la télévision.
Ça tombe bien, tu en parles à Macron, le chef de l'État ?
Le message est passé.
Le message est passé. Tiens, je me permets juste un petit aparté. Je m'adresse à l'élu que vous êtes, Sébastien Foy. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Hichem Lazal ?
Bien sûr, oui.
Pour, contre, une loi ?
Évidemment, je suis d'accord. De toute manière, l'égalité, que ce soit l'égalité femmes-hommes ou l'égalité de manière générale...
Alors, on compte sur vous pour aller la porter auprès de, évidemment, camarades de droite, là.
Pourquoi ?
Pour aller faire en parler à l'Assemblée nationale.
Je crois quand même que le message est parvenu jusqu'à nous, quand même.
Hein. Oui, oui. Écoutez... On compte
sur
vous.
Ça fait un petit moment déjà que... Mais c'est vrai qu'on ne va pas assez loin. Par contre, vous mettez le point sur quelque chose, sur un vrai problème qui est que ce soit pour l'égalité femmes-hommes ou que ce soit pour la mixité ou l'égalité chacun, que tout le monde soit représenté.
C'est dans le monde de l'entreprise également,
oui, tout à fait.
Peu de femmes dirigeantes.
Il faut accélérer, tout à fait.
Ton actualité, donc, télévision, pour le moment, en stand-by?
Pas stand-by, c'est-à-dire j'ai pris la décision il y a 2 ans de me poser ce challenge et de me dire est-ce que je suis capable d'écrire un roman tout seul, un roman de fiction qui ne soit pas une autobiographie, qui ne soit pas une bluette, qui ne soit pas Bonjour, le monde des bisounours et tout ça, etc. C'est un roman noir, ultra noir.
On va en parler.
Je me suis posé ce défi, j'ai continué à tourner en tant que comédien. J'ai d'ailleurs un film qui est sorti hier qui s'appelle L'ordre des choses d'Andrea Segre. C'est un film italien dans lequel je joue un personnage libyen. C'est très amusant.
Mais la Libye où la situation elle est chaotique quand même. Hein.
Eh ben, le film en parle très bien.
On parle très bien. Ah, ça m'intéresse.
Le film parle de cet exode libyen vers l'Italie et vers la Sicile plus précisément. C'est là où on a tourné. Donc je me suis concentré sur mon métier de comédien et je me suis concentré sur l'écriture des Nuits Indomptables qui m'a pris 2 ans et qui m'a pris 17 versions.
Adieu la télévision.
Pas adieu la télévision, mais j'ai toujours fait des programmes, et vous le savez, vous qui m'entendez et qui me reconnaissez peut-être, par rapport à 2M, la chaîne marocaine, et par rapport à France 2, j'ai toujours voulu des programmes de qualité. Si c'est pour venir faire le guignol, je laisse ma place. J'ai toujours fait des émissions culturelles et des émissions de divertissement de grande qualité. La dernière date d'il y a 3 ans, donc c'était... sur 2M, c'est une grande émission à la fois caritative et de divertissement. Donc quand la qualité est là, je réponds présent. Quand elle n'est pas là, je suis aux abonnés absents.
Parlons de ce roman. Votre premier roman, Les Nuits Indomptables aux éditions Les Plombs. Alors dites-moi, c'est une histoire. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le synopsis, l'histoire de Karim? Karim, personnage qui est récurrent dans votre ouvrage. Hein. Moi j'ai lu votre ouvrage, il est tout le temps là, il est présent partout. Omniprésence de Karim. Pour quelle raison? Pourquoi ce choix?
Alors, Karim, il a 25 ans, il a la chance d'avoir une beauté extraordinaire qui fait tomber toutes les barrières dès qu'il apparaît. Il prend un train à Bordeaux, quelques semaines plus tard, il reprend dans le sens inverse un train de Paris à Bordeaux. Entre-temps, il commet une série de crimes. Et pour autant, il n'est pas un serial killer, c'est uniquement des passages à l'acte. Donc j'appelle ça un thriller psychologique à la poésie. En tout cas que j'ai voulu poétique, il commet une série de crimes et il rencontre un personnage qui s'appelle Jean, qui l'héberge, et donc il y a une espèce d'émulation diabolique entre eux, où l'un a besoin de l'autre. Je l'ai dit, au bout d'un moment, l'un possède chez l'autre ce qui lui manque. Donc c'est un roman cash que j'ai voulu pour rentrer chez Plomb. Je vous assure, il faut la qualité.
Et il faut de la bonne qualité. Non, mais je lis très bien, vous nous embarquez, et c'est vraiment extrêmement passionnant. Vous nous prenez, hein, on est tenu en haleine en permanence dans cet ouvrage, Les Nuits Indomptables. Je veux dire, vous l'avez mûri depuis combien d'années, cette histoire, pour pondre ce premier roman ?
Il y a deux ans.
Mais alors, c'est quoi ? Vous êtes réveillé un beau matin et vous vous êtes dit, voilà, je vais me mettre à l'écriture ? Non, parce que la plume, en plus, elle est remarquable. Hein. C'est vous-même, là. Hein.
C'est moi qui l'ai écrit.
D'accord. Il n'y a pas besoin de plume, là.
Non, j'ai eu la question une fois d'un journaliste qui m'a dit, vous l'avez écrit avec qui ? Et je lui ai répondu une phrase de Serge Reggiani. Je lui ai dit, je l'ai écrit tout seul avec ma solitude.
Une belle réponse.
La solitude de l'écrivain est quelque chose de très prenant et quelque chose de très physiquement, en tout cas, éprouvable et éprouvé.
Alors, pourquoi l'écriture ?
Pourquoi l'écriture ? Parce qu'en fait, je m'étais posé un challenge. Je me suis dit, je vais bientôt avoir 40 ans, là, la semaine prochaine. Et je me suis dit,
on rate votre anniversaire, là. Bah oui, à une semaine près, je vous aurais pu vous inviter. On faisait la nouba ici à l'antenne.
On faisait la nouba. Et je me suis dit, je veux qu'avant 40 ans, il y a un proverbe qui dit plante un arbre, construis une maison et écris un livre avant 40 ans. J'ai pas de maison, je vous assure.
Pas de Rolex. Bah oui, parce que paraît-il, il faut avoir une Rolex avant 40 ans.
Et c'est pas pour 50 ans. Il avait dit.
Il avait pas dit 40
à 50 ans.
Il avait dit 50 ans, d'accord.
Mais oui,
il a encore un peu de temps.
Il a une Rolex, Hicham. Là, il fait le snob, etc. Et évidemment, attendez, là, vous croyez quoi ? France 2, le mec, il est partout, il fait de la télé. Il est star, il va pas. Non, mais bon, je doute. Hein.
Je préfère investir dans les livres, en tout cas, plutôt que dans les Rolex.
Il est fort, Hicham, il est fort.
Et je me suis dit, je vais me mettre un nouveau challenge. Je suis un homme de challenge, en fait. Donc, autant j'ai été en prime time sur des émissions, et là, je me suis dit, je vais écrire quelque chose tout seul. Je vais essayer d'enfanter. C'est un mot que j'utilise à bon escient. Je vais essayer de sortir quelque chose qui soit moi. La psychanalyse que je pratique depuis 15 ans m'a permis de mettre des mots sur cette chose-là, de ne plus être dans la séduction, mais d'être dans l'émotion.
Et alors, là, est-ce que vous trouvez que c'est réussi ?
En tout cas, les retours que j'ai, c'est un succès. Mmh. C'est un succès en librairie. C'est pour moi une surprise.
Pourquoi ?
Une belle surprise.
Pourquoi ?
Parce que je pensais que les gens n'allaient pas forcément adhérer sur une histoire aussi cash.
Aussi noire.
Je me souviens du journal Les Échos qui disait que c'est de la poésie brûlante, ultra noire et sur le fil, qui disait que c'était un des livres de la semaine et tout ça, etc. Alors vous imaginez, moi, le fils d'analphabète, mes parents sont arrivés dans les années 70, qui n'écrivaient pas le français, qui ne parlaient pas. C'est une revanche, c'est exactement
c'est
une revanche sociale aussi.
J'aime bien parce que, pardonnez-moi de vous interrompre, le journal local hein, de Gironde, puisque vous êtes bordelais, vous, non ?
Je suis bordelais.
Vous êtes bordelais ?
Je parle pas de Bordeaux d'ailleurs, parce que je me suis dit, tiens, autant le faire partir d'une ville que
Alors, la une du journal, c'est le coup de poing de Nasal. J'aime bien ça. Hein.
J'étais très étonné de cet article.
Ça fait très tennis.
D'une page, voilà. Alors, je pense que quand les gens ont feuilleté dans le café le dimanche, sorti le dimanche, le coup de poing de Nasal, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait ce mec ? Qu'il a frappé ? C'est quoi cette histoire de bagarre et tout ça, etc. Non, une fois qu'on lit. Il parle de coups de poing dans le ventre qu'il a reçus à la lecture de ce roman dont il a dit beaucoup de bien et qu'il exhortait d'ailleurs les Bordelais et toute la Gironde et la Nouvelle-Aquitaine, comme on dit maintenant, d'acheter le livre. Et puis, ils étaient fiers aussi quand Lormontais, parce que je vous assure que Lormont, dans les années 70, c'était les bars d'immeubles.
Exact.
C'était la cité.
Vous avez parlé de vos parents. Vous dites que vos parents sont arrivés dans les années 70 à Bordeaux. Vous m'arrêtez si je m'induis en erreur. Père maçon, mère au foyer.
Oui.
Parlez pas du tout français.
Une vie très modeste.
Fratrie de six enfants.
Six enfants.
Vous êtes l'aîné ?
Je ne suis pas l'aîné, je suis troisième.
Troisième.
Et puis ma mère, malheureusement, veuve à 40 ans.
Veuve à 40 ans. Une famille très modeste.
Très modeste.
Vous le dites vous-même d'ailleurs, très très modeste. Pourquoi vous dites très très modeste et pas tout court modeste ?
Parce qu'il est important pour vos auditeurs et auditrices de se dire que tout est possible, qu'il n'y a pas de fatalité.
Et alors, j'ai une question, parce que quand on arrive d'une famille, finalement ça va parler à beaucoup de nos auditeurs partout en France, hein. 01 53 48 3000, d'ailleurs n'hésitez pas, si vous souhaitez poser des questions à Hicham Nasal, vous pouvez le faire. Hicham, ça parle à beaucoup de gens, beaucoup d'auditeurs, cette histoire. Une question, est-ce que vous incarnez pas aujourd'hui cette espèce d'exemplarité ? Je sais que vous aimez pas, mais est-ce que finalement vous n'êtes pas un exemple ?
Vous avez tort.
Pourquoi ?
Je ne suis pas un porte-drapeau, mais je crois à la valeur de l'exemple, ce qui est très différent. Je suis le porte-drapeau d'aucune communauté, mais je crois à la valeur de l'exemple. Je crois que des stars du sport, de la culture, de la politique, du monde de l'entreprise, issus de l'immigration, quel que soit le pays d'immigration d'origine, doivent, au bout d'un moment, être des porte-parole et de dire « voilà ». C'est très américain comme concept, hein. C'est-à-dire, on dit voilà, « voilà d'où je viens ». Regardez Oprah Winfrey, par exemple, qui est la grande papesse de la télévision américaine et qui dit « moi, j'étais au pire destiné à être « maid », à être une serveuse ». Et je venais d'une famille très modeste. Donc je crois au concept d'exemple.
Donc vous assumez, vous incarnez l'exemplarité.
J'espère incarner la possibilité de
continuer
faire,
à faire rêver.
La possibilité de faire ce dont on rêve, oui.
Ce dont on rêve. Et vous arrivez à 18 ans à Paris. Pourquoi le choix de Paris ? Pourquoi ? Comme beaucoup de gamins.
C'est la chanson d'Aznavour. Je vous assure que je suis arrivé Gare Montparnasse avec un sac.
Un sac ?
Et je ne savais pas où dormir.
Bon, et qu'est-ce qui se passe pour vous ? Parce que vous êtes retrouvé quand même à l'université de la Sorbonne.
Oui, parce que j'ai la chance d'avoir été un étudiant plutôt brillant, mention bien. Donc j'avais fait un dossier, parce que je voulais absolument monter à Paris et être acteur. Donc j'avais fait un dossier un peu béton en disant « je veux venir à Paris, c'est la ville de mon cœur et tout ça, etc. » Il n'y avait pas encore toute cette histoire de carte scolaire et tout ça, etc. Bon bref, ils m'ont pris sur dossier. J'ai fait des études pendant 4 ans de langues étrangères appliquées, ce qui me fait parler...
5 langues, j'ai vu.
5 langues aujourd'hui.
Quelle classe, hein, ce Hicham Nazal.
Ça permet surtout de travailler, comme je vous le disais tout à l'heure, sur des films italiens, en libyen, en arabe classique.
Écoutez, bravo. Français. Non, mais bravo. Je vois que, non, mais le parcours remarquable. Et à la fois, vous arrivez avec un sac, etc. Ou voilà, université, la Sorbonne. Dites-moi, premier rôle à la télévision, 2006, casting pour Munich. Et là, vous êtes retenu.
Très surpris.
Steven
Spielberg, on me dit on me dit pas pour qui le casting je vais le passer, on me dit juste c'est un film américain.
Le mec il arrive, il claque tout, hein. Il joue pour Steven Spielberg.
On me dit tout simplement va passer un casting, on ne sait pas qui est le réalisateur, c'est un grand secret d'État et tout ça, etc. Je viens passer le casting et je vois devant moi Steven Spielberg. Donc là je manque de tomber. Imaginez bien pour...
Là, t'as dû être dans les vapes, non ?
Pour les gamins, c'est tous les films sont revenus à la face. Hein.
Oui. Ça t'a pas déstabilisé, ça ?
Ça m'a beaucoup déstabilisé. Il fallait jouer en arabe classique, il fallait jouer en anglais. Et juste avant de partir, il regarde le directeur de casting, il lui fait « call his agent », appelle son agent. Et là, j'appelle mon agent, je lui dis « tu sais avec qui je viens de passer un casting ?» Je sais pas, tu vas peut-être pas me croire, etc. En fait, je viens de passer un casting avec Steven Spielberg. Ils vont t'appeler parce que j'ai été pris.
C'est bon, ça.
Tout petit rôle dans Munich. J'ai passé 15 jours de tournage extraordinaire à Budapest. Et même, pour l'anecdote, les jours où je ne travaillais pas, je venais sur le plateau.
Le mec, il a... Et je veux Steven, ne me lâche pas, s'il te plaît.
C'était même pas ça, c'est que j'avais faim d'apprendre.
Ouais, mais j'ai bien compris. Hicham, Nazal, reste avec nous. Les Nuits Indomptables, c'est ton premier roman. Chacun de nous est-il un tueur en puissance ? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est vrai, non ? Est-ce que toi, t'es un tueur en puissance ?
Je pense qu'on tue tous des choses en nous à un moment donné.
Pub, et on se retrouve tout de suite après, notamment avec nos débatteurs. Restez avec nous, 0153 48 3000. C'est aussi vous, vous pouvez interpeller, poser vos questions. N'hésitez pas, à tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant. Beur FM, 18h-20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Retour du grand déballage, 18h-20h, on est ensemble, bienvenue, merci. Si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, on commence le week-end tout doucement, tout tranquillement. Il est 18h24, 25 précisément, hein, c'est l'horloge, il faut être évidemment à l'heure et précisément. J'étais avec Hicham Nazal. Hicham Nazal qui est mon premier invité avant de démarrer, évidemment les sujets qui ont secoué, qui seront commentés par nos influenceurs et influenceuses dans une poignée de minutes, là précisément. Hicham Nazal qui est acteur cinéma, animateur télé, il vient de sortir son premier roman, Les Nuits Indomptables, premier roman aux éditions Plon. Alors Hicham Nazal, on disait tout à l'heure que tu arrives sur Paris, que tu joues avec Steven Spielberg, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ?
À ce moment-là, je me demande si c'est un rêve ou si c'est la réalité. Je passe 15 jours à Budapest à le regarder travailler. Ensuite, les films s'enchaînent. S'enchaînent de manière surprenante, mais en tout cas avec beaucoup de détermination de ma part. Que ce soit à la télévision, que ce soit au cinéma.
Dis-moi, Hicham, et à aucun moment tu t'es dit « Bon, l'aventure peut-être hollywoodienne peut commencer pour moi ?» On aurait pu imaginer une carrière aux États-Unis.
Ouais, à 25 ans, je m'étais dit, je prends mes bagages, j'essaye d'aller à New York. Le courage m'a manqué, sincèrement.
Ah.
C'est un regret aujourd'hui. C'est pas, je suis profondément attaché à la France, et aux valeurs de la France, aux valeurs républicaines de la France.
Tu aurais voulu avoir une carrière comme Omar Sy, Saïd Tagmaoui, Marion Cotillard, tous ces gens qui se sont retrouvés à un moment donné propulsés aux États-Unis ?
Propulsés sans être allés, à part pour Saïd Tagmaoui, sans être allés et avoir fait la démarche d'être partis eux-mêmes aux États-Unis.
Saïd Tagmaoui, ça a été une démarche personnelle, c'est vrai.
Ça a été une démarche personnelle.
Et un succès en même temps.
Un succès en même
temps. Il vient du NAF 3, de chez vous, ça d'ailleurs, d'Aulnay-sous-Bois.
Et les autres acteurs ont plutôt eu des succès grâce à des films français. On pense à La Môme, qui s'appelait d'ailleurs La Vie en Rose, là-bas aux États-Unis, tout ça, etc. Non, c'est un petit regret dans ma vie de ne pas avoir... mais bon, à 40 ans, je pense que tout est possible. Maintenant, avec Internet et tout ça, etc., on fait des vidéos, on en voit. Je passe souvent des castings pour des films américains, pour être tout à fait honnête.
Revenons sur ton ouvrage, Hicham Nazal. Dis-moi, tu parlais de revanche tout à l'heure. Aujourd'hui, tu considères que c'est une belle revanche envers qui ? Envers la société ? Envers la vie ? Envers toi-même ?
Non, non, non.
C'est quoi ? C'est aussi une forme de réponse à tes parents, à tous celles et ceux qui ont combattu pendant... C'est toutes ces années, c'est quoi ? J'ai envie de savoir.
On parlait de cette valeur de l'exemple qui est très importante pour moi. C'est une revanche personnelle. C'était la possibilité de me dire tu peux être capable d'écrire un roman poétique avec une histoire dure qui sort de tes tripes. Pour être tout à fait honnête, moi, je voulais pas écrire un livre pour écrire un livre et me dire... Oh tiens, t'as écrit une petite bluette comme ça, un tel qui est amoureux d'un tel, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais quelque chose d'assez direct. Et j'ai la chance d'être extrêmement soutenu par dès le début par les éditions Plomb. Et puis là aussi, c'était cette histoire de revanche, c'était ça, c'était de me dire, je vais pas publier dans la petite maison d'édition qui va en sortir 200, catimini, tout ça, etc.
T'es ambitieux, tu vises haut.
J'ai toujours été ambitieux, mais j'ai toujours essayé d'avoir les moyens de mes ambitions.
Un petit chapitre de ton... Une page. C'est la page 35 de ton ouvrage. Il y a un petit passage qui m'a marqué. J'aimerais que, évidemment, on s'attarde là-dessus. Tu dis, non, on ne s'habitue pas avec le temps. 15 étages, pour la liaison. C'est pas si haut. Quand on voit, par exemple, les buildings de New York. Vous êtes déjà allé à New York, point d'interrogation, et là, une fois, c'était le marathon là-bas. Vous courez ? Peut-être. C'est oui ou c'est non. Peut-être, mais c'est peut-être. Sinon, j'aurais dit oui ou non. Pourquoi le passage ? Pourquoi parler de New York à ce moment-là ?
C'est drôle.
C'est le rêve new-yorkais, c'est quoi ? Moi, je ne sais pas. C'est le seul moment où tu fais référence à New York.
Je fais référence.
Et après, tu passes à autre chose.
C'est
mais
vrai.
Pourquoi parler de New York, là ?
J'ai parlé de New York parce
que... Il arrive
que...
comme ça, pouf !
Oui, c'est-à-dire que je me suis fait un petit plaisir perso.
Ben oui, j'ai bien compris, c'est pour ça que j'ai mis... Mais il faut que je lui pose la question, New York. Mais qui parle de...
Non, il faut
de,
savoir...
De
il faut,
Karim,
il faut
et savoir, tout d'un coup, on se retombe à New York.
Il faut savoir que Karim est un ancien, on le comprend dans le livre, est un ancien grand athlète, enfin en tout cas un athlète de très bon niveau, qui continue à courir. C'est quelqu'un qui court tout le temps, qui manque d'air, on le voit dans le livre, qui est complètement... Comme ça, sans souffle, et il y a des scènes d'ailleurs dans un stade d'athlétisme où l'entraîneur lui dit « mais vous pourriez faire de la compétition, vous courez tellement vite, tout ça, etc. » Donc cette petite référence à New York, c'était un petit truc personnel en me disant
« C'est un clin d'œil. »
C'est un clin d'œil, et si j'avais été à New York, peut-être que ma vie aurait été différente. Mais je suis très heureux d'être à Paris, je suis un amoureux éternel de Paris.
Mais tu connais New York ?
Je connais bien New York, tu pourrais y être allé plusieurs fois, oui.
Ouais. Remarquable ville, hein ?
Cosmopolite, dangereuse, poétique, brûlante, 24 heures sur 24. On peut même acheter des brosses à dents à 5 heures du matin à la pharmacie. Ouais,
alors, autre passage. Page 129, à l'intérieur du restaurant, Driss et le jeune homme sont attablés devant un couscous. Toujours, il nous renvoie au couscous. Tu sais, Zama, comme si on était condamné au couscous. Ah, ben voilà, tu vois, le mec, c'est le cliché. Enfin, New York, le couscous et Karim, ils se retrouvent. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Devant un couscous, autour, beaucoup de clients, tous maghrébins. Les deux apprennent à faire plus ample connaissance. Mais vous habitez un foyer, questionne Karim. C'est tout ce que l'insistante sociale, elle m'a trouvé. C'est un foyer pour jeunes travailleurs. Ma question est très simple, Hicham Nazal. Couscous, assistance sociale, foyer pour jeunes travailleurs. Pourquoi faire référence à ça ?
Parce
pour quelle
que
raison ? Tu venais nous renvoyer à quelque chose, une histoire, une genèse ?
Voilà, je renvoie à des choses que je connais. À un moment, il lui dit foyer pour jeunes travailleurs. Il dit FJT. Il dit mais comment vous savez ? Il dit c'est tout ce que l'assistante un moment, un personnage qui s'appelle Driss lui dit, c'est tout ce que l'assistante sociale m'a trouvé, mais bon, je suis un peu vieux pour ça et tout ça, etc. Bon, bref, j'essaye de faire une fiction de choses avec des choses personnelles que je connais. De toute façon, c'est Patrick Modiano qui disait ça sur une autre radio, qui disait, on écrit parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre vie, sans quoi on n'aurait pas besoin de littérature, on n'aurait pas besoin d'écrire. Mmh. Moi, j'écris des choses
que tu maîtrises.
Fictionnel, ouais. Mais je me fais plaisir en mettant des choses. Le prochain roman, d'ailleurs, je mets beaucoup de choses. Mes amis, quand ils l'ont lu, ils m'ont dit, là, ça m'a fait penser à toi. Mmh. Je mets des choses personnelles. Mon prochain roman, par exemple, je me suis fait plaisir, j'ai mis un passage de Maria Callas.
Bon.
Qui est ma deuxième mère.
Deuxième mère. Bon, on en parlera.
Bien sûr.
Autre chapitre. Alors là, c'est... Non, mais je te jure, je ne fais pas exprès Hichem Nazal. C'est toi, c'est ton ouvrage. Moi, quand je lis, il y a des choses qui me tapent à l'œil. Une bande de lascars accompagnée de chiens tenus en laisse par le fort en bas des cités de 4000 de la Courneuve. Voilà, on y revient. En banlieue parisienne. Ça, c'est chez vous, ça aussi, encore.
Ah bah, c'est pas loin, c'est pas loin.
Sono branché à fond. Karim arrive vers eux. Et là, c'est intéressant parce que tu sais quoi ? Karim, il s'accroche. Hein. Salam, les gars. Celui qui apparaît comme le chef d'origine maghrébine, vraie tête de truand, s'avance vers lui. Mais t'es qui, toi ? Karim reste solide, comme une vitre blindée, à l'épreuve des balles. Et alors là, il lui répond, Karim, t'enflamme pas, je viens pas pour du business. Alors tu viens pourquoi ? Je bosse pour moi, tu viens de quelle cité ? Eh ben j'arrive du bled, tante Karim. Mais d'où du bled ? Oh, bref, tu t'orrends, etc. Je suis algérien comme toi, nanani, nana. Deux choses,
ce qui est
dans une question.
Il faut savoir une chose, c'est que Karim, il est tellement animal dans ses nuits à
long terme. Il est schizophrène, surtout.
Il est schizophrène, il est tout ce qu'on veut.
Quand je lis ça, mais c'est un mec
mythomane.
Mais le mec, il est capable,
il est capable,
il est mytho, il est
au visage de quelqu'un de savoir de quelle origine il est. Et quand il va voir Driss, il lui dit qu'il est marocain, pas loin de Kenitra, de Casablanca et tout ça, etc. Enfin, il arrive à trouver tout de suite, c'est son instinct animal, il arrive à trouver ce que l'autre veut entendre.
Mais pourquoi là, encore de nouveau référence ? Alors, on parlait du couscous et maintenant on parle, si tu veux, de la banlieue, des quartiers populaires. Pourquoi systématiquement faire référence au lascar ? Au quartier populaire. Voilà, tu nous renvoies aussi un peu à ça.
Je renvoie à de la poésie aussi. Il y a des passages très poétiques qu'on n'aura pas le temps de lire. Parce
mais c'est bien écrit.
1933.
Hein.
Merci.
On n'est pas dans le voyeurisme.
Non, on n'est pas du tout dans le livre de cité et tout ça, etc. On est dans de la poésie. Où, à un moment, je parle d'une forêt dans laquelle on a été oublié dans l'enfance et tout ça, etc. Dans laquelle on cherche une main tendue, mais qui ne vient pas non plus. Il y a... À peu près toutes les 10-15 pages, il y a des passages poétiques que j'ai voulu, en tout cas poétiques. Pourquoi la cité de la Courneuve, pourquoi les lascars et tout ça, etc. Parce que l'histoire voulait qu'au bout d'un moment, ils puissent trouver un appartement à Driss et qu'ils savaient qu'il y avait des portes qui s'ouvraient, tout ça, etc. Tout ça, je me suis documenté. C'est un ouvrage fictionnel extrêmement documenté. Et je me suis même documenté sur le psychisme des serial killers. Ce n'est pas un serial killer, mais le psychisme des gens qui passent à l'acte.
Ouais. Question que tu soulèves toi-même dans ton ouvrage. Chacun de nous est-il un tueur en puissance ? Je te renvoie la question, Hichem
Nazal. On tue tous quelque chose en nous, jour après jour.
C'est-à-dire ?
Ben moi, par exemple, j'ai l'impression d'avoir tué chez moi une espèce d'insouciance. L'insouciance m'a été retirée, comme dirait quelqu'un, que je ne citerai pas.
Sébastien Foy, est-ce que tu es un...
Non,
un tueur en puissance.
Pas de moi, hein, c'est
là,
pour
je
la
sais bien, mais je pose la question. Moi.
Les hommes politiques sont des fauves.
Écoutez, je ne sais pas. Mais en tous les cas, si on tue tous, oui, ils sont au moins virtuellement. Au moins virtuellement. C'est-à-dire que, ne serait-ce que le stade de l'adolescence au passage adulte, on tue une partie de l'enfance. Voilà. Donc ça, virtuellement, pour devenir un adulte, il faut forcément tuer une partie de son enfance ou renoncer à une partie de son enfance.
Même question, Sophia Kelouki.
Oui.
Pareil, est-ce que tu sens que tu es un tueur en puissance ou une tueuse en puissance ?
Oui.
Oui.
Ouais.
Et toi, Mehdi ?
C'est la même chose, hein. C'est une certaine innocence qu'on met de côté, ou qu'on oublie, qu'on fait disparaître hein, finalement, virtuellement, comme tu disais, Sébastien.
Qu'on fait disparaître quoi ? Avec l'âge ?
Avec l'âge, avec le quotidien, avec les responsabilités aussi.
S'adapter, oui.
Cette phrase aussi, l'homme est un loup pour l'homme.
Exact, oui.
Ouais, c'est vrai.
Premier roman noir, évidemment, entre les hommes blessés, fauves, comme tu l'as souligné, etc.
C'est entre les nuits fauves et l'homme blessé de Patrice Chéreau et de Cyril Collard.
Et ce remarquable personnage, vraiment extraordinaire, Karim. Moi, franchement, j'ai pris
en
beaucoup de plaisir.
En tout cas, tu me donnes envie de le dire, en tout cas.
Parce c'est bien, parce que ça. Non, mais c'est pas se dire, c'est réussi alors ce que tu viens de dire.
Vraiment. Réussi à mon parce que.
Et ça sort de l'ordinaire.
Hein?
Et ça sort de l'ordinaire.
On est d'accord.
On peut l'acheter où?
T'es content?
C'est maintenant.
Chez Plomb.
Regarde. 13 euros.
Je les ai pas achetés. Hein.
C'est ça.
J'ai vu, vous les avez convaincus et je te remercie infiniment, Adine. Merci.
Donc les auditeurs, peut-être, certainement, sont convaincus. Un mot, un dernier mot pour celles et ceux qui t'écoutent. Un mot sur les nuits indomptables.
Non, c'est juste un mot pour les auditrices et les auditeurs concernant mon livre. C'est juste de dire que croyez en vos rêves, tout est possible.
Croyez en vos rêves, tout est possible. Continuez à rêver. I have a dream.
I have a dream. Martin Luther King est toujours de grande actualité aujourd'hui, plus que jamais.
Hicham Nazal, acteur de cinéma, animateur de télévision, il vient de sortir son premier ouvrage qui s'intitule Les Nuits Indomptables aux éditions Plomb. Merci infiniment, mon cher Hicham Nazal.
Merci.
Tu reviendras?
Ah ben je reviendrai avec plaisir, faites attention.
Ouais, on fait très attention. On a même peur maintenant après ce premier ouvrage. Bravo.
Merci.
Bravo et évidemment, continue de rêver comme tu viens de nous le dire.
Merci
Hicham.
Merci.
Et dans une poignée de secondes, juste après la pub, on retrouve bien nos débatteurs avec le grand déballage et puis le standard qui sera ouvert au 0153 48 3000. Le grand déballage avec le premier sujet qui a retenu notre attention, il s'agit là de la 41e journée des droits des femmes, bataille de l'égalité, guerre des sexes, casser les clichés, inégalité des salaires. Le combat des femmes pose-t-il problème aujourd'hui? On en parle, ou pas d'ailleurs, on en parle, on continue d'en parler juste après la pub. A tout de suite avec Sébastien Foy, élu Les Républicains du Bourget dans 9-3, Mehdi Amal, responsable digital, et enfin Sophia Kelouki, consultante en communication et rédactrice numérique RTL.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 18h, 20h. Le grand déballage avec Adil Farkan.
Merci si vous venez de nous rejoindre. Sachez-le, on est ensemble jusqu'à 20h. Il est 18h45. Merci si vous venez de nous rejoindre. On est très heureux. Chaque vendredi, vous le savez, c'est votre émission. Elle s'intitule Le Grand Déballage avec Sophia Kelouki, consultante en communication et rédactrice numérique RTL. Mehdi Amala, responsable digital. Et enfin, Sébastien Foy, élu Les Républicains du Bourget dans le 9-3, c'est le département. Et on va aborder ce premier sujet. Le 8 mars dernier, le monde célébrait un jour dédié aux avancées des droits des femmes. C'était la 41e journée des droits des femmes. On va parler d'égalité, on va parler de cette bataille, on va parler de la guerre des sexes. Est-ce que l'homme pose problème aujourd'hui? C'est vrai, c'est une vraie question, paraît-il. On va écouter, c'est une sélection qu'a faite donc notre journaliste Delphine Thébault. Déclaration faite il y a quelques jours, enfin le 8 mars dernier, par le chef de l'État Emmanuel Macron concernant la situation de la femme et la journée de la femme.
Nous allons multiplier drastiquement les contrôles pour pouvoir traquer ces inégalités et les sanctionner fortement. Nous allons aussi mettre en place un système de, pour parler en bon français, name and shame, c'est-à-dire nous allons rendre public les entreprises qui respectent le moins la loi et qui, au vu des contrôles, ont les plus gros écarts salariaux, pour stigmatiser. Parce que la stigmatisation fait changer les comportements, parce que personne n'a envie d'avoir le bonnet d'âne de la classe en la matière.
Ah, j'aime bien ce bonnet d'âne. Dites-moi, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, le chef de l'État? Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a une bataille de l'égalité? Une bataille concernant la situation des femmes? Je m'adresse à l'élu, tiens.
Oui, oui.
Sébastien Foy.
Bah, écoutez, déjà, la première chose, c'est... moi, je me félicite déjà qu'il y ait une journée... alors, on a renommé ça la Journée internationale des droits des femmes, et je pense que c'est une bonne chose. La Journée des femmes, elle est tous les jours, ou elle est... Enfin, je veux dire, soit on en parle, soit on n'en parle pas. Mais en effet, c'est...
Mais pourquoi en parler?
Mais parce que c'est...
Il faut la bannir, cette journée, finalement. La Journée des femmes, faut que
non,
ça...
Non, écoutez, ne pas en parler, ne pas en parler, c'est approuver les inégalités qui existent. Les inégalités, elles existent, elles sont factuelles. Dans le monde du travail, il y a des inégalités... des différenciations, des discriminations qui existent. Donc il faut en parler, bien sûr, et il faut adopter un certain nombre de mesures pour y remédier.
Dites-moi, je vais faire un tour de table, mais quand même, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, comme l'a souligné le chef de l'État, la stigmatisation, il n'a pas employé plein de mots comme ça, volontaire. Vous êtes d'accord avec lui ou pas?
Concernant la stigmatisation?
Oui.
Sur ce sujet, il y a... je ne sais pas si stigmatisation, c'est le bon terme. Je dirais plutôt qu'il y a une sorte de discrimination, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a des gens qui font une différence de traitement entre les femmes et les hommes. Oui.
Sophia Kelouki, Mehdi Amala, dites-moi, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une bataille de l'égalité, la guerre des sexes? Ça y est, la guerre des sexes est déclarée, Mehdi Amala.
Moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est quand même assez optimiste parce que les hommes se battent main dans la main aux côtés des femmes justement pour éviter cette inégalité. Il ne faut pas oublier que le droit de vote des femmes a été accordé il y a 70 ans. Pour moi, 70 ans, c'est hier.
C'est récent.
C'est super récent et on se base surtout sur un historique, sur une configuration. Donc la bataille, elle n'est pas forcément entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut travailler, il faut mettre des choses en place, arrêter de stigmatiser les choses. Je parle de la France, on peut aussi parler de l'Arabie Saoudite, par exemple, où les femmes ont le droit de conduire depuis l'année dernière. Donc c'est une avancée énorme. Elles ont le droit aussi de se présenter aux élections municipales. Des choses sont faites. Je pense qu'il faut être aussi patient.
Et puis, chose inédite, hein, deux femmes ont été nommées récemment au sein du gouvernement. Oui. Deux femmes, dont une qui est quand même vice-ministre. C'est l'équivalent de secrétaire d'État chez nous.
Oui, mais... Oui, d'accord.
Oui.
Sophia, l'Arabie Saoudite, d'accord.
Sophia, toi, tu as un cas de figure qui est intéressant. C'est-à-dire que tu arrives là, tu viens tout droit du Qatar, où tu as célébré là-bas la journée de la femme. Oui. Qu'est-ce que tu as perçu? Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce qui t'a frappé? Finalement, quelle est la situation des femmes là-bas?
Alors, effectivement, avant de parler du Qatar, il ne faut pas oublier que cette journée internationale des droits des femmes, parce que moi, ce matin, j'ai été reprise par une féministe qui m'a dit non, c'est pas la fête internationale des femmes, mais des droits des femmes. Il faut pas oublier que en 1970, ça a été quand même adopté par les Nations Unies. Donc, et en 1982 a été adopté, en tout cas cette journée internationale des droits des femmes a été adoptée en 1982 en France. Donc, ça, il faut pas l'oublier, c'est un petit rappel. Je reviens effectivement du Qatar. Je remercie Siam Soui. De m'avoir invité à ce voyage-là.
Siam Soui, juste qu'on précise, elle est consultante à la communication.
Exactement, pour l'État du Qatar, un voyage organisé donc de presse. Et donc le sujet, l'angle du sujet était à la femme, à la découverte de la femme du Qatar. Effectivement, j'ai été agréablement surprise, vraiment.
Pourquoi ?
Alors, je vais te dire ça, oui. Parce que j'ai effectivement interviewé pas mal de femmes. De rencontrer ces femmes qataries instruites et avec un haut potentiel et avec un bagage de diplôme. Et quand elles vont étudier à l'étranger, parce qu'elles nous disent, toutes ces femmes-là nous disent qu'elles sont parties à l'étranger pour étudier et revenir ensuite dans leur pays, au Qatar, pour pouvoir ensuite développer plusieurs activités. Elles sont dans le domaine du tout ce qui est culturel, mode, sportif. On a rencontré la championne handball féminin qui a remporté quand même des titres.
Est-ce que tu peux considérer qu'aujourd'hui elle incarne la situation de la femme et les femmes à Qatari, est-ce qu'elles incarnent aussi suffisamment, je dirais, de cette avancée, l'émancipation de la femme du Moyen-Orient, dans le
Moyen-Orient. Elles le disent quand on les interviewe, bien évidemment. Elles nous disent que effectivement, ça leur pose aucun problème de pouvoir travailler. Elles travaillent. Hein. Pour certaines, elles travaillent. Elles ont un...
même salaire homme-femme. Pas sûr, hein.
Non, mais
inégalité salariale, par exemple, ça c'est mondial, c'est universel.
Oui, c'est universel, mais c'est pas ça. Elles sont au-delà de tout ça. C'est ce côté vraiment transmettre ce savoir. Et franchement, elles sont. Oui, moi j'ai été agréablement surprise parce que on a toujours des a priori. Et là, pour le coup, c'est un sujet par rapport à la Semaine internationale des droits des femmes. Et là, on rencontre effectivement des femmes fabuleuses, des chefs d'entreprise. Il y en a une qui a ouvert un café-restaurant en bord de corniche, mais 100% végétarien. Elle a donc embauché une chef...
Donc femme patronne, quoi.
Femme patronne. Elle a embauché une chef qui a travaillé avec Alain Ducasse. Donc... Et puis, c'est des personnes qui sont vraiment ouvertes au monde. Il y a des Jeux Olympiques en 2019. On a rencontré la directrice et marketing de communication du département de Doha. On lui a posé toutes plein de questions. Elle nous a répondu vraiment
sans tabou.
Sans tabou.
Vraiment. Sans tabou. Messieurs, je voudrais vraiment qu'on fasse un peu débat là-dessus. En France, chez nous, hein, concernant la journée et justement aux avancées des droits des femmes. Parlons des inégalités concernant les salaires. Là, il y a problème quand même. Hein. Je m'adresse aussi
bien sûr,
l'élu.
Oui.
Je m'étonne même d'ailleurs qu'aujourd'hui, ça fasse débat.
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a évidemment un vrai souci, mais ce n'est pas le seul. Hein. Ce n'est pas le seul. On le voit dans toute la société en général. Ce que je voudrais souligner, c'est que déjà, cette loi d'égalité femmes-hommes, c'est une loi qui est juste, qui va dans le bon sens et qui va dans le sens du progrès. Il faut le souligner, il faut le rappeler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut évidemment passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, si on continue comme ça, l'égalité qu'on recherche en termes de salaire ou en termes d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, on l'aura peut-être en 2100. On ne sera pas là pour constater. Hein. Bon, voilà. Donc, il faut accélérer, il faut prendre des mesures. Moi, j'ai écouté assez attentivement et puis j'ai revu les mesures dont avait parlé Édouard Philippe, le Premier ministre, hier. Il y a un certain nombre de mesures qu'on peut appeler des mesures intéressantes, que je trouve intéressantes.
Ah oui, lesquelles ? Notamment,
des mesures qui visent à inciter et à sanctionner dans un deuxième temps les entreprises qui n'iraient pas dans le sens de l'égalité femmes-hommes. Ça, c'est une première mesure. Il y a une deuxième mesure que j'ai retenue qui me paraît intéressante, qui est de mettre un référent dans les établissements scolaires. Ça, je m'arrête deux minutes là-dessus.
Oui, bon.
Écoutez, en Seine-Saint-Denis, mettre un référent femme-homme dans les établissements scolaires, c'est tout sauf anodin. C'est tout sauf anodin.
Pourquoi ? Dites-nous tout. D'ailleurs, si ça vous fait réagir et si vous-même vous considérez qu'aujourd'hui, on ne doit plus du tout parler, ou même vous-même, est-ce que vous êtes victime de cette inégalité des salaires, vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Alors, c'est tout sauf anodin parce que le respect réciproque entre les hommes et les femmes, il s'apprend tout jeune. Il s'apprend dès l'école.
Donc, ce n'est pas anodin.
Et donc, ce n'est pas anodin. On a, dans les établissements scolaires en Seine-Saint-Denis, dans d'autres départements aussi, on a des problèmes, on a des problèmes entre les garçons et les filles. Voilà. C'est-à-dire que c'est une réalité, les garçons et les filles. Ouais. Ne peuvent
que
pas
vous vivez vous-même d'ailleurs dans les différents établissements scolaires du NAF3.
Mais que j'ai.
C'est vrai, c'est une réalité ou pas ?
Que j'ai pu constater.
Ouais. Il y a un problème entre hommes-femmes.
Mais c'est pas. Il y a un problème, c'est-à-dire que c'est un problème profond qui est que. Si vous avez une petite copine ou un petit copain, vous ne pouvez pas l'embrasser devant tout le monde parce que c'est mal vu. Voilà, il y a tout un tas de choses et je pense qu'il faut faire œuvre de pédagogie dans ce sens-là. Et le fait qu'il y ait un référent, ça va dans le bon sens, à mon sens.
Vous êtes d'accord avec cette histoire de référent média, Mala ?
Alors moi, je voulais revenir justement sur
N'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez, 01 53 48 3000.
Les inégalités salariales. Aujourd'hui, il y a des conventions collectives qui existent en entreprise. Beaucoup de frustration est générée justement à cause de ces inégalités salariales. Est-ce qu'on ne peut pas conseiller aux auditrices qui nous conseillent, si elles sont sur un poste à iso-responsabilité, iso-périmètre que leurs collègues masculins, d'aller voir les RH et d'exiger une réévaluation salariale ? Parce que dans les conventions, on n'a pas un tableau avec fourchette homme, fourchette femme. On a juste fourchette responsabilité.
Vous savez ce qui se passe ? Il y a un salarié qui va se plaindre, vous savez ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Bah, il finit à la porte.
Mais non, ouais. Non.
Non,
si.
Il n'y a pas
un certain nombre de lois aussi.
Je suis plutôt d'accord avec Sébastien.
Non, mais s'il n'y a pas un certain
en général, quand la femme vient l'ouvrir, quand elle commence à l'ouvrir, elle dit non, mais attendez, elle va réclamer le salaire de la même manière que celui que l'homme, son homologue ou son acolyte, etc., a la même fonction, même poste.
Les incitations.
On lui fait comprendre gentiment que si tu n'es pas content, tu prends la porte. Hein.
D'ailleurs,
toutes les femmes, si vous nous écoutez, et vous avez été, évidemment, si vous le partagez ou pas, vous avez été victime de ça, vous pouvez nous raconter votre histoire.
Il reste encore 24% de femmes qui gagnent moins que les hommes. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Ah, mais
c'est
énorme.
Elles gagnent 25% de moins que les hommes.
Bien sûr.
Ouais. En France.
Et pourquoi tu n'es pas d'accord avec cette thèse-là, non ? Peut-être, je ne sais pas.
Après, j'ai peut-être ce côté naïf, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, moi, je pousse vraiment les femmes à exiger un entretien avec leur directeur, leur directrice, leur RH, pour, avec en appui, la convention collective qui définit les fourchettes hautes et les fourchettes basses, et pas en fonction du sexe de la personne, mais vraiment en fonction du périmètre d'activité, du périmètre de responsabilité. Après, effectivement, si derrière des mesures en plus qui sont poussées, ça viendrait appuyer, mais je reste sûrement naïf. Mais je suis un peu surpris qu'on peut, qu'on risque d'être licencié parce qu'on exige le même salaire que
Écoutez, masculin. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec d'ailleurs Mehdi Amalas qui vient de nous dire, ou plutôt d'accord avec Sébastien Foy, ou plutôt d'accord avec une autre thèse, j'en sais rien, vous nous appelez 01 53 48 3000. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 18h-20h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Il est 19h, merci d'être avec nous. On a eu juste un petit souci de téléphone, mais tout est rentré dans l'ordre. Jérémy, est-ce que tu confirmes oui ou non? Attention Jérémy, hein, tu nous sabotes pas le standard. Hein.
J'allais dire j'espère.
Bon, le standard va être réparé d'ici vraiment quelques secondes. Donc 01 53 48 3000, parce que moi j'ai envie de vous entendre sur la situation de la femme, sur les inégalités des salaires, sur le combat des femmes, sur la promotion à l'égalité au travail. Oui, j'ai besoin de vous entendre et puis on va continuer à entendre nos influenceurs et influenceuses. Tout de suite, c'est l'heure du zap. Il est 19h, le zapping réalisé par notre journaliste Delphine Thébault. C'est parti.
Le grand déballage, le zapping de la semaine.
Des tweets comme celui-ci, nique les bougnoules, à mort les juifs. Il y en a de très nombreux sur les réseaux sociaux.
5 associations antiracistes proposent donc des mesures concrètes, comme lever plus facilement la barrière de l'anonymat. Une plus grande responsabilité des hébergeurs. Les associations souhaitent aussi les obliger à retirer les contenus illégaux signalés sous 48 heures.
Endiguer la surpopulation carcérale, c'est l'objectif principal de cette refondation pénale. Première mesure, les peines de moins d'un mois seront supprimées et celles de 1 à 6 mois pourront être effectuées en milieu ouvert. Emmanuel Macron veut une mise en place massive des peines de substitution, travaux d'intérêt général ou bracelets électroniques.
Rien n'a changé en Birmanie. Le nettoyage ethnique à l'encontre des Rohingyas se poursuit, accuse l'ONU. Les Nations Unies qui soulignent le double discours du gouvernement birman.
Depuis ce matin, mandatée par l'État, l'association La Vie Active distribue des repas aux migrants. Méfiant pour cette première, peu de migrants ont fait le déplacement. La distribution s'effectue sur 2 lieux situés en périphérie de la ville. Symbole de l'objectif des autorités, éviter les points de fixation et les campements sauvages.
Yeah. Le grand déballage, le zapping de la semaine.
Merci à Delphine Thébault qu'on retrouve dès la semaine prochaine concernant le zapping. Le 8 mars, donc il y a quelques jours, je le rappelais, le monde célébrait un jour dédié aux avancées des droits des femmes. Dites-moi, alors aujourd'hui le combat des femmes, il se place où finalement? Je m'adresse à Sophia. C'est quoi? C'est vous réclamez plus de salaire? Vous réclamez plus d'égalité? Vous réclamez tout simplement que homme-femme, même statut? C'est quoi la guerre des sexes?
Non, il faut qu'il y ait effectivement l'égalité au niveau des salaires, au niveau de hommes et femmes. Mais bon, après, si je dis ça, je vais peut-être... Après, on parle bien effectivement du domaine professionnel. Hein. Mmh. C'est vraiment parce que...
Oh, mais je pose la question parce que, vous savez, quand moi je m'adresse à quelques femmes, par exemple, d'ailleurs pas mal de femmes me disent « Mais attendez, chacun sa place. Les hommes gardent leur position d'homme, leur posture d'homme. Voilà, et nous, les femmes, on garde notre posture de femme. Arrêtez de nous faire chier avec vos histoires de guerre des sexes et de bataille de l'égalité. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure. Oui, vraiment. Je me suis amusé cette semaine, il y a quelques jours, à parler à plusieurs femmes, comme ça, de divers horizons. Et elles m'ont toutes répondu ça.
Mais est-ce qu'on peut partir du principe qu'à compétence égale, salaire égal?
Oui,
voilà, pas, sûr, voilà. Exactement. Oui, voilà, oui. On est d'accord. Voilà.
Mais toi, ton combat, il se place où en tant qu'élu, justement?
Mais mon combat, c'est de faire respecter une... C'est... Mon combat, c'est que les gens se sentent bien dans la société.
Mmh. Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, mais Sébastien. Se sentir bien dans la société, la preuve de la société aujourd'hui, elle est bourrée de...
C'est une démarche de progrès, c'est-à-dire ça en fait partie. Le fait qu'il y ait une différenciation à compétence égale, on a 24% ou 25% de différence de salaire, c'est pas normal. Mmh. Donc mon combat, il est justement, c'est une démarche de progrès pour que les gens se sentent bien. C'est voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que je fais ce métier, moi. Mmh. C'est pour ça que je fais ce métier.
Ce métier de la politique, ça sert aussi à ça?
Mais
pourquoi ça prend autant de temps? C'est vrai.
Ah, parce que c'est long.
C'est long, c'est terrible.
Les mentalités.
Alors Sarkozy, il en a parlé, il ne l'a pas fait.
On a une mentalité.
Hollande, il en a parlé, il ne l'a pas fait. Donc Macron, là, bon, on voit, yes, ça commence à... C'est timide, mais ça bouge.
Ça bouge doucement, doucement, quand même. Hein. Bon, moi, j'ai vu quelques mesures annoncées par Édouard Philippe hier. De dire que dans les filières scientifiques, il faut qu'il y ait le même nombre de femmes et d'hommes. Bon, je veux dire, les gens, ils choisissent ce qu'ils veulent. Bon, voilà, ce qu'il faut, c'est lever les freins, oui. Mais faire de la communication comme Macron en fait depuis le début de son mandat, bon, voilà. Il faut prendre un certain nombre de mesures, il faut accélérer sur ce plan-là, c'est sûr.
Sophia.
Oui, voilà, on parle bien des compétences professionnelles et puis après, effectivement, je peux comprendre que certaines femmes puissent te dire, bah, écoute, chacun a sa place, l'homme a sa place et la femme a sa place. Et pour certaines personnes, ça leur pose aucun problème, hein.
Moi, ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, une femme puisse dire à iso-responsabilité, ça ne me dérange pas de gagner moins que toi. C'est plus sur la sphère privée, je pense, sans paraître macho ou pas. Mais je pense que la femme aujourd'hui, elle a besoin, elle a été inculquée via un certain modèle. Et le fait qu'elle fasse la cuisine, qu'elle s'occupe des enfants, c'est plus ça qu'elle souhaite.
Attention, Mehdi, tu vas te faire tirer dessus.
Non, c'est pas ça.
Attention.
C'est pas ce que je pense.
Mehdi, attention aux propos.
C'est pas ce que je pense.
T'es sur un terrain miné, Mehdi. Non,
Adil, c'est pour rebondir sur tes propos lorsque tu disais que t'as eu ta.
Moi, j'ai rien dit finalement. Moi, j'ai dit quelque chose, moi.
T'as discuté avec certaines femmes de différents horizons qui souhaitaient conserver la place de la femme. Donc, je pense que c'est plus sur la sphère privée.
Il est en train de nous dire, Mehdi, tranquillement, et la femme, allez, tu restes à la cuisine et nous.
C'est pas ce que je pense.
Fais attention. Hein. Non, justement, il est là le truc. Est-ce que. Il est là le sujet. C'est est-ce qu'effectivement, on place la femme à parts égales, mais partout, qui veut dire dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle, ou on le dit comme ça et que...
Privée, chacun fait ce qu'il veut.
Oui, mais...
Chacun distribue les tâches comme il l'entend. C'est le principe de couple.
Mais on n'avait pas forcément...
Il est malin, Sébastien.
On n'avait pas forcément les mesures.
C'est réellement ce que je pense.
Non, mais c'est vrai. Après, je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez, je vous pose une simple question, est-ce que vous considérez que la femme doit prendre la place de l'homme?
Mais quand tu dis ça, c'est quoi la place
pas
de l'homme?
Ça veut dire quoi?
C'est une question aussi qui est soulevée par les féministes, par exemple. Elles ont manifesté il y a quelques jours.
Oui,
partout en France.
République, ouais.
Oui, elles ont manifesté. Vous avez entendu les slogans, il y a plein de choses qui ont été...
Alors,
et blablabla, bla, bla, les paroles.
Oui, non, mais
c'est vrai,
moi,
c'est leur slogan.
En gros, moi, pour rebondir là-dessus, c'est pas forcément prendre la place de l'homme. C'est juste avoir les mêmes capacités d'exercer les métiers d'hommes. Par exemple, on voit de plus en plus de femmes chauffeurs de bus.
Oui.
Il y a 10-15 ans, ça nous surprenait, ça nous choquait limite. Maintenant, c'est devenu l'emblème.
Et des femmes chefs d'entreprise, de grandes entreprises.
Bien sûr, et vice-versa. Et je prends l'exemple aussi des congés paternité.
Bah voilà,
ça a été mis en place en 2002. Oui. Donc justement pour que l'homme puisse prendre des jours et s'occuper du nourrisson, du nouveau-né, ça c'est des mesures. Comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, on peut pas changer du tout au tout. Il y a des mesures qui sont mises en place et puis on fait aussi avec l'histoire.
Ah, sauf que l'histoire, elle dure maintenant, tu l'as rappelé tout à l'heure, depuis 70 ans.
C'est ça.
Bon, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut prendre des mesures.
Parce qu'en même temps, j'ai évidemment manqué de vous parler des clichés, parce que comment casser les clichés justement? Les fameux clichés. Tiens, c'est une vraie question, ça, y compris à vous, monsieur le politique.
Oui, monsieur le politique va vous répondre. Alors. mais moi, je suis persuadé que ça doit venir du travail. Moi, j'ai une certitude, c'est que ça doit venir et de l'éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un effort de pédagogie vis-à-vis des enfants, tout petits, expliquer l'égalité. Je pense que c'est très important et que ça prépare la génération de demain. Et également dans le cadre du travail, d'envoyer des messages clairs dans le cadre du travail pour qu'il y ait une égalité.
Oui, mais comment
je voudrais juste communiquer à nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent partout en France qu'on a juste un petit bug. Un bug qui me fâche, qui me met un peu en colère, mais bon, ça va se rétablir parce que paraît-il que, évidemment, Jérémy est quand même...
Je peux recevoir les appels, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas te les afficher, par contre.
Mais c'est pas grave, on prend tout en direct.
On fera tout en papier.
Même pas en papier,
on
balance en direct. C'est le live. C'est le live, tu me balances tout en direct et après on s'occupe des auditeurs. Voilà, sans problème. 01 53 48 3000. Et évidemment, Jérémy est en train de résoudre. Mais vous pouvez nous appeler. Il vient de nous confirmer, vous pouvez nous appeler. Même si ça ne s'affiche pas, vous pouvez nous appeler. 01 53 48 3000. Sophia, tu nous disais. Et après,
oui,
Mehdi.
Je me permets de m'adresser
à Sébastien
Foy. Quand vous dites à travers l'éducation, qu'est-ce que vous, en tant que politique, vous pouvez mettre en place? Parce que vous êtes élu du 93, par exemple, chez vous, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Parce que c'est vrai que c'est nous.
Ce genre de débat fait partie de la pédagogie qu'il faut mettre en place. Et il faut que ça revienne sans cesse, pas uniquement le 8 mars, je pense. Mmh. C'est des sujets qui doivent être abordés tout au long de l'année, parce que ce sont des vrais sujets. Moi, l'éducation, pour moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Mmh. Parce que je suis persuadé que la solution, elle vient de là.
Voilà. Exactement.
Elle vient de l'instruction, elle vient de l'éducation, voilà. Et la manière dont on le fait aujourd'hui. Et puis, moi, en tant qu'élu, c'est d'en parler lorsque je rencontre les gens, de dialoguer, de recueillir leurs avis. Voilà, c'est ça mon métier d'élu. En termes d'éducation, c'est ça.
On a une auditrice ou un auditeur. Bonjour. Bonjour.
Oui, bonjour.
Moi, je fais tout en live. Hein. Vous savez, comme on a un petit bug, mais la ligne fonctionne, mais je ne peux pas avoir le tableau. Alors, dites-moi, vous vous appelez comment? Juste le prénom et vous nous appelez d'où?
Alors, je m'appelle Mina, j'appelle de Creil.
De Creil. Bienvenue à toi, Mina. On t'écoute.
Merci. Alors, moi, c'est une question assez simple parce que j'entends, enfin, là, avec la journée de la femme, on en entend parler partout de l'égalité entre hommes et femmes. Mmh. Mais moi, la question que je me pose, c'est que pourquoi vouloir être l'égal de l'homme, sachant qu'on a des différences?
C'est ce que j'avais dit tout à l'heure.
Ah, bah excusez-moi, parce que je prends l'antenne en cours, donc je viens...
Non, mais allez-y, je vous en prie, au contraire. Moi, je suis ravi. Dites-le, il faut que ça fasse débat, cette histoire.
Voilà, c'est...
On doit en parler.
On ne peut pas être l'égal de l'homme. Ce qu'on demande, c'est l'équité. Mais être l'égal de l'homme, ce n'est pas possible. Et c'est ça qu'on devrait apprendre à nos enfants dès leur plus jeune âge. Mmh. C'est vraiment...
Bonne question. Reste avec nous, Mina. Sébastien Foy va te répondre.
Merci bien.
Reste avec nous.
Oui, naturellement. L'équité, je suis tout à fait d'accord avec l'auditrice. C'est-à-dire que, en effet, ce qu'il faut rechercher, c'est pas que l'un remplace l'autre ou que l'autre remplace l'un, mais qu'en effet, il y ait une égalité de traitement et une équité dans la société entre la femme et l'homme. Mmh. Oui.
Vous êtes d'accord avec ça, l'équité?
Oui, je suis d'accord avec,
vous validez
avec l'auditrice. Ouais.
Je valide.
Mina, ça vous va?
Très bien.
Non, mais c'est vrai, finalement. Non, mais même, on va poser la question à tous celles et ceux qui nous écoutent partout en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette histoire équité et pas égalité?
Excusez-moi, Mina, je me permets. Vous travaillez?
Non, je suis maman à plein temps. Enfin, je travaille, oui, mais maman...
Voilà, très bien, voilà.
Alors, si on s'adresse aux femmes qui travaillent, elles diront pas équité, elles diront égalité, peut-être.
Non, parce que j'en discute aussi dans mon entourage, auprès de femmes qui travaillent. Et sincèrement, non, c'est vraiment une idée... C'est vraiment partagé avec toutes mes amies. Et vraiment, l'égalité, pourtant, voilà, je dirais qu'on a toutes des revendications par rapport, je dirais, au sein du foyer ou même certaines femmes dans le travail, dans le cadre du travail. Mais vraiment, l'équité, c'est toujours le mot, nous, c'est le maître mot, en fait, quand on discute entre nous, qui ressort.
Eh bien, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord avec Mina? Vous nous appelez au 0153-48-3000, 0153-48-3000. Êtes-vous d'accord avec la proposition de Mina? Merci, Mina.
Je vous en prie.
Merci. Finalement, Journée internationale des droits des femmes, Journée de la femme, est-ce que ça ne veut pas dire un peu la même chose?
Ouais, mais je pense que ça, c'est un faux débat, c'est une question de syntaxe. Hein. On sait tout ce qu'il y a derrière cette journée. Le principal, c'est les mesures qui avancent et le résultat aussi. Hein. C'est un peu comme le débat balance ton porc, c'est juste une question de syntaxe. Là, il faut pas... Tout à l'heure, tu disais, Sophia, que tu as été reprise au Qatar, justement, parce que tu as oublié juste un mot dans cette formule. Et enfin, ça, je pense qu'il faut arrêter.
Alors,
je suis d'accord avec Mehdi.
Sophia, non,
c'est vrai que c'est...
Sébastien,
On n'en a pas parlé, mais on n'a pas parlé de la notion de respect aussi, qui est évidemment primordiale. Je ne sais pas quel est le chiffre exactement du nombre de femmes qui meurent sous le coup des conjoints.
Je peux vous dire ça tout de suite. Hein.
Une fois par jour. Enfin, je ne sais plus. Alors, une par jour.
J'ai des chiffres. Il y a 220 000 femmes qui sont victimes de violences commises par leur conjoint. Donc 220 000 femmes qui subissent chaque année.
Donc je parlais de pédagogie tout à l'heure. Je pense que la pédagogie,
c'est énorme, hein.
Elle doit être toute l'année. Pas seulement le 8 mars, toute l'année. On doit répéter toute l'année les mêmes choses. Ça doit être un vrai thème. Et la pédagogie et le respect. La notion de respect, c'est-à-dire qu'une femme, ce n'est pas un sous-homme. Voilà.
On a... l'antenne est toujours ouverte. Hein, 0153-48-3000. On a quelqu'un. Bonjour. Bonjour, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour.
Bon, rappelez-moi Adil. C'est très bien. On est entre nous. C'est entre la famille. Hein. Le grand déballage, c'est nous tous. Quel est ton prénom et tu nous appelles d'où, s'il te plaît?
Abdelhafid, je vous appelle de Donnay-sous-Bois.
Bienvenue Abdelhafid, on t'écoute.
Écoutez, moi je voulais juste faire une petite analyse sur le débat. C'est un débat très très intéressant.
Oui.
Un débat de société.
Oui, c'est vrai.
Et je voudrais juste porter des petites nuance. Il ne faut pas rentrer dans l'amalgame de... c'est-à-dire l'équité ou trouver un... comment on dit, l'égalité homme-femme,
oui,
avec le discours qui est porté par certaines associations féministes qui font beaucoup de tort,
oui,
femmes elles-mêmes.
Oh là, oui.
Donc
ça te pose problème.
Exactement. Quand on entend des discours d'associations féministes, c'est hallucinant.
En même temps, elles n'ont rien dit de mal. Les associations féministes, les représentants de syndicats ont appelé il y a quelques jours, je le rappelle, jeudi dernier précisément, dans plusieurs villes de France, notamment à partir de 15h. Elles ont dit quoi? Elles ont dit qu'il faut parler plus de lutte collective et pas une fête. Bon, est-ce que c'est choquant? Moi, ça ne me choque pas personnellement.
Écoutez, moi, sincèrement, dans la majorité des associations féministes, ils portent un message de... Pour casser l'homme. Et quand ils portent ce message-là, elles font du tort aux femmes. Parce que quand vous prenez les femmes partout dans la rue ou d'horizons différents, elles nous disent qu'elles veulent rester femmes et qu'elles veulent avoir des hommes, bon portant, avec un certain égard, etc. Donc ce message de féministe ne doit pas être pris comme argent comptant, si vous voulez, vous voyez.
Oui, je comprends très bien. Mais écoutez, le débat est lancé. Celles qui se sentent concernées par ton discours, qu'elles n'hésitent pas à nous appeler au 01 53 48 3000. Merci beaucoup d'être intervenu, Abdelatif.
Merci à vous.
Merci.
Bonne soirée.
On a une autre auditrice, me semble-t-il. Allô, bonsoir. Bonsoir.
Oui, allô?
Oui, bonsoir. Quel est ton prénom et tu nous appelles d'où, s'il te plaît?
Oui, bonsoir, messieurs, dames. Donc, je m'appelle Nejma, je vous appelle de la Loire.
Bienvenue, Najwa, on t'écoute.
Naïma.
Nejma.
Naïma.
Voilà, c'est l'étoile, normalement.
Naïma.
Mais c'est pas du tout le cas.
Naïma, on t'écoute.
Nejma, l'étoile, voilà.
Nejma, donc j'avais bien raison.
Pardon.
Oh, ils sont indisciplinés, ils sont incroyables, ces influenceurs. Non, mais ils ont un problème auditif, non? On sait pas bien. Ils sont incroyables, hein. T'as vu Naïma, là, quand même, tout de suite, là, Nejma?
Oui.
Ils s'attaquent, là, comme ça. Non, vous serez plus invité, vous. C'est fini, non, mais ça y est, moi, je suis comme ça, moi.
Il nous a blacklisté.
Ah, c'est fini, hein. On t'écoute, Nejma.
Voilà, donc moi je viens juste de prendre l'antenne malheureusement, donc j'étais en voiture, je ne pouvais pas vous contacter, donc là je viens d'arrêter le moteur pour pouvoir vous appeler un petit peu. J'aurais voulu donc vous dire par rapport à mon cas personnellement,
oui.
Comment voulez-vous qu'on soit égal à l'homme? Il faut d'abord qu'on soit respecté par l'homme.
Ah, joliment dit, hein. Ça fait plaisir à Sébastien, ça.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure.
Oui.
Donc,
mais cher Nejma, c'est toute une éducation, ce que tu es en train de nous dire, là.
C'est-à-dire?
Il faut éduquer aux plus jeunes. Finalement, la réforme qui est proposée par Édouard Philippe, le Premier ministre, de s'attaquer aux collégiens et aux lycéens, est une très bonne chose.
Oui, mais alors, monsieur, je ne connais pas votre prénom.
Une mesure, oui.
Donc, monsieur... Moi, ce que je tenais à vous dire,
oui,
c'est très bien que les jeunes d'aujourd'hui essayent d'être égales à l'homme par rapport au salaire, par rapport à tout. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour nous, les anciennes? Moi, je ne suis pas toute jeune. J'ai 64 ans et je sais de quoi je parle. Pourquoi, à notre époque, à nous, on n'a rien fait pour nous? Pourquoi est-ce qu'on a trouvé... des hommes qui nous ont maltraités, qui nous ont bafoués.
Oui, vous avez raison. Et vous êtes nombreuses effectivement à penser cela.
Tout à fait. Pourquoi est-ce que nous, les anciennes, on est obligés de porter ce fardeau? Donc, on le porte encore. Moi, je suis très heureuse pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est la loi peut changer. C'est la vie peut changer pour elles. C'est le gouvernement peut faire pour quelque chose pour elles.
On sent le vécu, Nejma. On sent le vécu.
Nous, les femmes de ma génération, pourquoi est-ce qu'il n'y a eu personne pour nous protéger, pour nous soutenir?
On continue d'en en parler, Nejma, et la question sera soulevée, y compris auprès de nos influenceurs. Merci d'être intervenu, on marque une courte pause. Le standard reste ouvert.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 18h, 20h. Le grand déballage avec Adil Farkan.
Et on est ensemble jusqu'à 20h, merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre si vous venez de nous retrouver. On est ensemble jusqu'à 20h puisque deux sujets encore à traiter, Tarek Ramadan et enfin retour sur le PSG Real. On va clore évidemment ce premier chapitre concernant le Monde qui s'y a célébré, qui a dédié aux avancées des droits des femmes et on va accueillir Abdel avant de répondre à, évidemment à notre auditrice tout à l'heure, Nejma. Abdel qui nous appelle de Trappes, bonjour Abdel.
Adil, bonjour.
Bonjour, bienvenue à toi, on t'écoute.
Tous mes respects, merci pour votre émission, très bien, super.
Merci beaucoup.
On essaye d'être assidus et bravo pour ce que vous faites.
Ah, merci beaucoup. Merci en tout cas pour tous celles et ceux qui nous suivent chaque vendredi.
Ben c'est normal, c'est normal. Bonne émission, égale à bonne écoute, égale à une oreille très attentive pour votre...
Arrêtez là parce que sinon je vais gonfler. Attention, hein, Abdel. Ça y est, là, vous avez franchi la ligne, là. Ça y est.
Non, mais c'est le but.
Je rigole. Là, je rigole. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est très gentil.
Il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César aussi.
C'est très gentil. Merci bien. Et c'est aussi grâce à vous. On vous écoute. On t'écoute.
Merci. Merci, Adil. Ceci étant dit, je crois que dans la société actuelle et depuis les années 70, il y a un très gros mélange entre coutumes arabo-musulmanes, coutumes noires chrétiennes, etc., etc. Il ne faut pas confondre. Le problème des femmes aujourd'hui qui existe, il n'existe pas depuis aujourd'hui. Il faut savoir qu'il existe depuis la nuit des temps.
C'est pas faux, c'est vrai.
Aujourd'hui, les femmes, par exemple, pour prendre un exemple, elles veulent l'égalité, mais elles prennent les hommes en otage lorsqu'il s'agit de divorce pour les enfants, ou lorsqu'il s'agit pour l'appartement, ou lorsqu'il s'agit pour la voiture. Premier point. Deuxième point, lorsqu'il s'agit d'égalité, elles veulent l'égalité dans un seul sens. Attention, je suis pas anti-femme, je respecte les femmes et je les aime. Attention, parce que là, je me retrouve avec tous les auditeurs sur le dos en disant « Ah là là, qu'est-ce qu'il raconte ?» Non. C'est mon point de vue très personnel. Deuxièmement, les femmes, lorsqu'elles veulent l'égalité, c'est que dans un sens. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un crédit à payer, c'est bah, l'homme doit payer plus, c'est normal. Pour elles, c'est normal.
Mais c'est normal, ils gagnent plus.
Oui, ils gagnent plus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ma femme, par exemple, gagne beaucoup plus que moi. C'est pas pour autant que je lui dis, bah, tu gagnes plus que moi, il faut que tu payes plus que moi. Non, ça marche pas dans ce sens-là. Enfin bref, mais pour les femmes...
On peut réclamer l'équité,
bien sûr.
Oui, c'est tout.
Voilà, puisque les femmes réclament l'égalité et l'équité, alors on réclame l'équité.
Exactement, donc ça va dans un sens et dans un autre. Donc on peut, nous, hommes, parce qu'il y a des hommes battus aujourd'hui qui ne le revendiquent pas par honte, et il y a des femmes battues, attention, je ne cautionne pas ce genre de pratique, je trouve ça barbare et très mesquin, mais il y a des hommes aussi battus, il y a des hommes aussi qui sont dans une précarité telle qu'ils sont obligés de payer plus que leur femme alors qu'ils gagnent plus moins que leur femme, qui sont pris en otage avec...
Vous êtes en train de nous dire, Abdel, qu'il faut aussi la journée des hommes, c'est ça ?
Mais bien sûr, totalement, il y a des hommes aujourd'hui...
Attendez, Abdel, qu'en pense le politique Sébastien Foy ?
L'homme avec un petit âge est faible aussi.
Ouais, qu'en pense Sébastien Foy ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Non, moi, ce que j'entends chaque fois quand on dit, quand il y a quelqu'un qui dit il faut la journée des hommes, on me rétorque, oui, mais c'est tout le reste de l'année. Bon, voilà, bon. Mais sur ce que disait l'auditeur sur les divorces, il me semble, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble bien qu'il y a de plus en plus de divorces qui sont aussi en faveur des hommes, qui sont aussi en faveur des hommes, pour tout plein de raisons, et notamment parce que la société évolue.
Et parce qu'il y a une association aussi...
il y a de plus en plus d'associations qui défendent les hommes.
Divorcés.
Donc en effet, il y a un rééquilibrage dans les deux sens.
Pas autant.
Mais il y a un rééquilibrage. Ah oui, mais c'est à mesure de la progression. Il y a un rééquilibrage qui se fait quand même un petit peu.
Abdel, avant de te libérer.
Eh bien, cet équilibrage, il se fait aujourd'hui, si on ouvre bien les yeux, au niveau des femmes. Mais c'est féministe, là, je rejoins votre auditeur qui est passé avant. C'est féministe, couvre l'actualité, qui fait que, ben, on ne voit pas cet équilibrage pour les femmes aujourd'hui qui est fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, dans mon entreprise, il y a plus de femmes que d'hommes. Les femmes gagnent plus que les hommes. Et ce qui s'ensuit, etc., etc. C'est pas pour autant, moi, mon mari aujourd'hui, ma responsable est une femme. Et ça je n'ai pas des crises sur les temps en disant, ah, c'est une femme. Non, bien au contraire.
Donc, Abdel, t'es bien, Abdel, t'es en train de nous dire que ça existe bien.
Mais bien sûr, c'est.
Mais c'est quelle entreprise
pas, parce que c'est féministe aujourd'hui.
Il faut le dire.
En actualité, en dévoilant leurs atouts, en disant eh, voilà les féministes.
Il dit alors il est en train de nous dire atouts. Il est en train de nous dire c'est Sébastien Foy, c'est quoi comme entreprise qui embauche plus de.
Bah, il faut faire la promotion de l'entreprise.
Comment elle s'appelle l'entreprise?
Il y en a plein, mais aujourd'hui, je suis pas là pour faire le comment dirais-je
la pub.
Publicité de mon entreprise, mais il y en a plein. La preuve, c'est que Monsieur le Président Emmanuel Macron a fait la publicité d'une certaine entreprise dont je me tairai le nom pour pas faire republicité sur une publicité d'une entreprise qui aujourd'hui, soi-disant, est aller dans les clous en mixité homme-femme. Aujourd'hui, le gouvernement est en mixité homme-femme. Tout est en mixité homme-femme aujourd'hui.
Pas le cabinet du président.
Tout est en homme-femme. Chauffeur de bus, vous en parliez tout à l'heure.
Oui.
Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de femmes chauffeurs de bus que d'hommes.
Je ne sais pas si vous avez vu.
Il y en a une, secrétaire général adjointe.
Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes.
Oui, exact. Ben, merci pour ton intervention, Abdel.
C'est moi qui te remercie.
Merci, à bientôt. Et merci de ta fidélité, au fait. Reste fidèle. Voilà.
Merci beaucoup à tous.
Merci.
À bientôt. À bientôt.
Ciao.
Qu'est-ce qu'on répond c'est vrai, beaucoup pensent un peu comme Abdel, mais qu'est-ce qu'on répond aussi à Nejma, qui faisait référence effectivement à toutes, aux femmes là, qui aujourd'hui ont entre 60 et 70 ans, et on les a un peu oubliées. Hein.
Ce que je dis, enfin moi, ce que je pense, c'est que, en effet, à l'époque, il y a 30 ou 40 ans, c'était pas, ça n'avait pas la même priorité qu'aujourd'hui. À l'époque, il y avait d'autres soucis économiques ou autres, et il n'y avait pas cette conscience, en tous les cas, cette conscience politique. Moins, cette conscience politique était de différenciation entre les hommes et les femmes. Peut-être qu'il y a une partie aussi tradition qui était encore plus ancrée à l'époque qu'aujourd'hui. Bref, la société a évolué depuis, mais la société, elle met du temps à évoluer. Elle met beaucoup de temps à évoluer. Ça ne se passe pas en nombre de mois ou d'années, c'est en termes de décennies. Il faut des dizaines et dizaines d'années pour que les choses évoluent.
Allez, on va tenter d'avancer, s'il vous plaît. 19h31, et on va passer au second sujet, parce que j'aimerais quand même qu'on parle et qu'on finisse l'émission avec le PSG Real. Hein.
Ah,
j'y
oui.
tiens absolument. Tariq Ramadan qui est accusé, il y a une plainte pardon, qui a été déposée il y a quelques jours, mercredi précisément. C'est la troisième plainte hein, de ce type déposée contre le théologien Tariq Ramadan. Alors, ma question est très simple. Hein, c'est une troisième femme qui dépose une plainte pour viol. Déjà, quelle réaction? Vous trois, Sébastien Foy.
Oui. Alors, sur Tariq Ramadan, je voudrais passer un tout petit peu de temps là-dessus parce que c'est le sujet est évidemment éminemment important. Et il y a plusieurs volets sur ce sujet-là.
Oui.
Ce qui choque les gens, c'est déjà, dans cette troisième plainte, il y a une notion de violence qui est plus avérée que dans les autres plaintes, je crois, d'après ce que j'ai lu. Donc ça, c'est choquant. Naturellement, ce qui choque les gens, c'est la différence entre ce qui pourrait être un comportement. Je mets tout au conditionnel, parce qu'aujourd'hui, moi, Tariq Ramadan, comme n'importe quel autre citoyen, a droit à la présomption d'innocence, même si je combats et je déteste les valeurs et les idées qu'il porte, et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, il a le droit, comme tout un chacun, à la présomption d'innocence, et ça, il faut le rappeler. Donc là-dessus, sur le fait que, ou non, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la justice qui tranchera. Mais en tous les cas, ce qui choque les gens, c'est le prédicateur. D'un côté, vous avez le prédicateur qui donne un certain nombre de conseils ou qui fait des conférences sur la manière de vivre, sur les relations entre les hommes et les femmes, etc. Et puis, vous avez de l'autre côté quelqu'un qui se comporte à l'inverse, qui se comporterait à l'inverse de ce qu'il dit.
Bon. Restons au conditionnel.
Restons au conditionnel. Non, attendez.
Il y a quand même tout de même la présomption d'innocence.
Oui, bien sûr, c'est extrêmement important. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec les idées que porte Tariq Ramadan, parce qu'il faut rappeler que Tariq Ramadan est le petit-fils du fondateur des Frères musulmans. Les Frères musulmans, c'est une association, pour ne pas dire autre chose, c'est une association qui prône la supériorité de la charia sur les lois de la République. Je répète, hein, qui prône la supériorité de la charia sur les lois de la République.
Ses grands-parents. Donc,
oui, mais lui,
c'est pas lui.
C'est ça.
Oui, c'est juste un héritage.
Ah oui, mais lui, il a fait des conférences génétique. En tant que frère musulman. Et il prône ces valeurs-là. Bon. Mmh. Et il ne faut pas oublier non plus.
Vous faites référence à son grand-père qui s'appelle Al-Banna et qui, lui, était Égyptien. Le fondateur des Égyptiens, bien sûr, fondateur des frères musulmans.
Voilà. Et. Il a, à un moment donné, il y a quelques années, parlé...
Et après, Tariq Ramadan n'a jamais tenu ce type de discours en disant que l'islam,
oui, il a seulement dit...
l'islam était au-dessus des lois et de la République, me semble-t-il. Jamais jusqu'ici, il a tenu ce type de discours, de propos.
Ah, il faudrait quand même regarder un peu plus dans les...
Ah, sauf si vous me dites le contraire. Moi, je veux bien. Moi, j'ai un peu suivi le parcours de très loin. Hein. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Mais ça aurait fait quand même une polémique s'il l'avait dit.
Mais les frères musulmans, comme les salafistes, prônent ce genre de choses. Mm. Prônent le fait que la charia est supérieure aux lois de la République. C'est un problème.
Et vous pouvez nous intervenir d'ailleurs, 01-53-48-3000 sur l'affaire Tariq Ramadan.
Il a même dit il y a quelques années qu'il voulait un moratoire sur le lynchage des femmes adultères. Vous vous rendez compte de dire des choses comme ça?
Je me rappelle de ça, bon, effectivement.
Mais on ne peut pas dire des choses comme
Allez,
ça.
Allez, on fait un tour de public. Mehdi Amala.
Écoutez, moi je suis un peu, j'ai envie de dire, quel gâchis. Et parce que moi, je suis français, je suis né en France, issu de l'immigration. Et aujourd'hui, Tariq Ramadan représentait, malgré son héritage et ses ancêtres, un exemple pour moi, un exemple d'éloquence, un exemple de prestance aussi. Quand il passait à la télé, je trouve qu'il nous représentait bien, nous, français, issus de l'immigration. C'était une certaine fierté. Qu'on soit d'accord avec ses idées ou pas, d'ailleurs, mais il a une très bonne élocution. Donc, je suis dégoûté. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui doivent partager le même avis. Mmh.
Dégoûté par quoi? Le fait qu'il soit pris embrigadé dans cette histoire-là, ou dégoûté parce que, finalement, déçu par le personnage?
Un peu des deux, parce qu'encore une fois, j'attends que l'enquête soit finie, qu'il soit jugé, parce qu'il est peut-être coupable ou non, mais un peu dégoûté qu'on perde finalement une figure pour nous.
Mmh. Une figure. Sophia? Perdre une figure. Je sais pas, mais j'aimerais qu'on en parle là-dessus, vraiment, parce que il y a Mehdi qui dit, il incarnait l'exemplarité, il nous représentait quelque part, on perd une figure. Sébastien Foy qui dit tout le contraire, hein. Je combatte Tariq Ramadan, et puis Sophia, et puis vous-même, 0153 48 3000. Que représente pour vous Tariq Ramadan?
En fait, cette histoire-là, c'est des histoires où normalement, moi je suis à la fois aussi partagée, parce qu'il y a la présomption de l'innocence. Je ne comprends pas pourquoi, au jour d'aujourd'hui, et ça c'est mon avis personnel, il est en prison.
Mais si.
Après qu'on soit d'accord ou pas.
Ça a été expliqué.
Oui, mais. Ça a été
expliqué. Il est en prison pour préserver les victimes.
Mais non, il est en prison surtout parce qu'on a peur comme il n'est pas français, qu'il aille en Suisse ou en Angleterre.
Il est quand même venu.
Et pour préserver les plaignantes.
Il est quand même venu. Oui. Rappelons qu'il est quand même venu de son plein gré. Il aurait pu très bien rester dans son pays où il demeure et ne pas venir à la convocation. Il est quand même venu à la convocation et répondu, garde à vue. Mmh. Il a été en garde à vue.
Ouais, attendez, chacun son tour. Sébastien.
Venir aux convocations, c'est quand même le minimum pour quelqu'un qui est citoyen.
Ce qu'elle voulait vous dire par là, c'est qu'il n'était pas obligé de répondre à la convocation.
Oui, mais il aurait été poursuivi. Mmh. Mais... Il y a des plaintes, c'est la loi. Bon.
Mmh. Mais il n'a pas été condamné.
Non, mais...
Je veux dire, il a encore... Il est encore présumé encore innocent c'est ça.
Fait. Mais il est en détention, vous avez bien fait de le rappeler. Il a été mis en examen dans un premier temps et mis en détention dans un deuxième. Pour deux choses, et là vous l'avez rappelé aussi. La première, c'est qu'il est considéré, pour éviter qu'il parte dans un autre pays et qu'il se réfugie dans un autre pays. Donc c'est lui. Et la deuxième chose, c'est surtout pour préserver les plaignantes, puisque tout le monde le sait, c'était dans tous les journaux et de toute façon ça a été raconté dans long et en large, les plaignantes étaient victimes de harcèlement dans la rue, chez elles, quotidien, pas seulement sur Internet, parce qu'on parle beaucoup d'Internet.
On va prendre, si vous voulez bien, un auditeur ou une auditrice, s'il vous plaît, juste priorité, 0153 48 3000. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Quel est ton prénom et tu nous appelles d'où?
Nadia.
Et tu nous appelles d'où?
J'appelle de Grenoble.
Grenoble, bienvenue à toi. On t'écoute, Nadia.
Merci. Alors, je voudrais répondre à Sébastien Foy, c'est ça? Je ne vais pas bien.
Oui. Sébastien Foy, c'est ça. Sébastien Foy, c'est bien dit.
D'accord. Alors, je vais lui répondre à lui directement.
Oui, allez-y. Vous pouvez clasher nos influenceurs, bien sûr.
Tout à fait. Moi, je suis un soutien infaillible à Tariq Ramadan.
Et dites-nous pourquoi.
Et je trouve qu'il est venu, sur cette radio, se faire l'écho de ses détracteurs. Franchement, je trouve ça vraiment petit.
Mmh. Ouais.
Et puis de ramener systématiquement à sa filiation, comme lui l'a répété maintes et maintes fois. Je suis le petit-fils de Hassan el-Benna, c'est vrai, mais je ne suis pas Hassan el-Benna.
Mmh.
Hassan el-Benna, il avait des opinions auxquelles Tariq Ramadan partageait certaines et d'autres non.
La lapidation.
la lapidation. Mais vous êtes sérieux, Sébastien, franchement.
Ah, c'est pas moi, c'est pas moi qui préconise la lapidation,
écoutez,
hein, qu'on
sérieux,
soit d'accord.
Mais il y a des vidéos, il y a des tonnes de choses qui permettent de vérifier, c'est dire. Et vous êtes là à rattacher les mêmes choses.
Mais c'est lui-même qui l'a dit.
Mais c'est petit, excusez-moi, mais c'est petit. C'est vraiment petit et c'est scandaleux.
Non, mais il est en train de vous dire. Il est en train de te dire. Non, mais Nadia, ce que tu es en train de dire, Sébastien Foy, c'est de dire justement.
Oui.
C'est pas moi qui dis ça, c'est Tariq Ramadan.
Non, mais alors, c'est pas vous qui le dites.
Alors, restez, Nadia, ce que je te propose, restez avec nous, on marque juste une courte pause et je te reprends tout de suite après. On est d'accord ?
Il n'y a pas de souci.
À tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 18h, 20h. Le grand déballage avec Adil Farkan.
C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci à celles et ceux qui viennent de nous retrouver. Il est 19h46, encore un quart d'heure à passer ensemble. On va essayer de tenter de faire vite, vous savez pourquoi. D'abord, un, parce que vous êtes nombreux à nous appeler. Et deux, j'aimerais quand même qu'on traite du sujet PSG-Real. Sébastien Foy, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Tu m'as dit, oui, je vais rajouter une petite note, mais vite, parce que j'ai des auditeurs qui attendent.
Rapide. Juste rajouter une phrase.
Mais qu'il anticipe, il est trop fort. Dire... Les politiques
Non, c'est pas ça. Non, parce que c'est une précision. Déjà, dire que moi, je ne suis pas islamophobe, je suis islamistophobe. Ça, c'est la première précision.
Ça veut dire quoi, islamistophobe?
Et ça veut dire que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour
les
moi,
mots que je viens de connaître,
on n'a pas... Non, mais attendez, si, islamisme, si. Je suis contre l'islamisme radical.
Voilà.
C'est très clair.
Oui.
Bon, ça veut dire que pour moi, la charia n'a pas été au-dessus des lois de la République, on n'a pas à prôner.
On est d'accord.
Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je fais évidemment la distinction entre des organisations comme les Frères musulmans et comme... Et ça, c'est très clair pour moi, entre les Frères musulmans et les salafistes et la communauté musulmane qui, dans sa très, 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 très grande majorité, est modérée.
Merci de le souligner. Et c'est une réalité. On va accueillir direction Toulouse. Laïla. Bonsoir, Laïla.
Il restait Nadia, pardon.
Nadia, tu es toujours là avec nous, Nadia?
Oui, je suis toujours là. J'attends.
Ah oui, alors Nadia, quelques secondes encore pour t'écouter. Dis-nous tout. Avant de retrouver Laïla à Toulouse, parce que vous êtes nombreux à nous appeler.
Alors, ce que je veux dire là, surtout, c'était que de ramener Tariq Ramadan aux frères musulmans, franchement, c'est une désolation.
Eh bien, on l'a bien compris.
Vraiment, ne pas le suivre du tout. Je comprends que vous êtes un petit peu pris par le temps. Mais je tiens à dire surtout, c'est que Tariq Ramadan ne correspond pas du tout à la description que fait Sébastien Foy.
Bon, mais merci en tout cas de ton
attention. Non, juste, madame, s'il vous plaît.
Oui, mais moi aussi, s'il te plaît. Tu sais pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à nous appeler.
Ce qu'il a entendu et il n'a aucune investigation personnelle. On voit qu'il n'a jamais rien lu, jamais rien entendu.
C'est
et
fou.
Ça, c'est scandaleux de venir s'avancer comme ça.
Parce merci, Nadia. Allô? Allô, Nadia?
Mettre la charia avant la République, c'est un pur mensonge.
Ouais. Voilà, Nadia, merci.
Bonne soirée, au revoir.
Merci, ça continue à faire débat, je le sens. Bonsoir à Laïla de Toulouse. Bonsoir, Laïla. Je te demanderai d'être courte, s'il te plaît, parce que vous êtes nombreux. Bonsoir, Laïla.
Bonsoir, salam alaikum.
Alors, salam,
voilà, je voulais juste apporter un petit peu mon point de vue rapidement. Par rapport à Tariq Ramadan, s'il y a des témoignages, moi, bon, je pense que les témoignages, ils ne sortent pas de nulle part. J'ai une amie, une très, très proche amie qui est journaliste et qui, il y a quatre ans de ça, elle avait eu des plaintes, hein, des retours, des témoignages d'une femme qui s'était qui avait divulgué qu'elle avait été violée, enfin bon, voilà, par Tariq Ramadan.
Et ça, mais attends, c'est grave ce que tu es en train de nous dire là. Une connaissance à toi d'une femme qui s'est fait violer par Ramadan?
En fait, elle avait apporté son témoignage. Elle voulait que la journaliste mette en avant cette affaire. Mais la journaliste, elle était toute jeune. Elle commençait dans le journalisme et elle ne voulait pas s'entacher.
Jeune journaliste qui s'est fait violer par Tariq Ramadan?
Non, une dame qui avait eu des problèmes d'ordre de viol, hein, faut dire la ce qui est.
Qu'elle porte plainte, pourquoi elle porte pas plainte?
Ben pareil, la pression, Tariq Ramadan quand même c'est quelqu'un qui pèse un peu, qui est une figure et voilà, moi je.
Mais là il y a une troisième femme qui a déposé plainte, après c'est à la justice faire son travail.
Non, c'était il y a 4 ans ça, il y a 4 ans et demi.
Non mais la plaignante là, c'était il y a quelques années.
Ouais, mais voilà, elle avait apporté son témoignage à la journaliste qui n'avait pas pris la responsabilité de divulguer cette affaire. Mais il y avait déjà des bruits qui couraient comme quoi.
Mais toi, tu parles d'il y a 4 ans. Mais tu sais, cette troisième plainte, la plaignante, là, la troisième,
oui.
Cette histoire-là, c'était entre 2013 et 2014.
D'accord, oui. Mais en tout cas, elle n'a pas porté plainte. Elle a juste apporté son témoignage auprès de la journaliste qui est très proche de moi et qui m'avait montré les mails,
bon.
D'ailleurs.
Bon, bah, merci d'apporter cette information.
Et juste, je voulais rajouter, moi, je suis... l'homme reste un homme, l'être humain est un être humain, qu'il soit président de la République, prêtre ou imam, etc. Si on fouille dans l'intimité des gens, on va sûrement trouver des choses bizarres. Donc moi, c'est pas parce qu'il est Tariq Ramadan qu'il n'a rien fait ou que, voilà. S'il y a des témoignages aujourd'hui de personnes et qu'il y a des enregistrements téléphoniques, tout ça, ça sort pas de nulle part. Et voilà, je rejoins aussi le collègue, juste rapidement, mon petit avis par rapport à la charia et les lois de la République, que je suis tout à fait d'accord avec lui, que la charia n'a pas...
Il est content, Sébastien, hein, soutien.
Merci.
Les Républicains en force. Merci, Laïla.
Je suis musulmane et j'adore ma religion, mais on n'est pas une communauté, qui...
Il y a plein de gens comme vous. Il y a plein de gens qui pensent comme vous.
Si nous relevons contre les lois de la République, la personne, si elle n'est pas contente avec les lois de la République, et bien qu'elle aille dans un pays purement musulman où on pratique
exactement.
La
charia. Exactement. Il y a plein de gens qui pensent comme vous.
Merci, Laïla. Merci, Laïla.
Et juste un truc, les salafis ne sont pas tous des méchants. Hein. Il y a des salafis,
on n'a jamais dit qu'ils étaient des méchants, d'abord.
Non, je veux dire...
pas de calomnie.
Voilà, il y a des salafistes qui sont très très bien et voilà, chacun.
Bon, c'est un autre débat, c'est pas le lieu.
Voilà, c'est un autre débat.
Merci Laïla, je vais accueillir l'auditeur suivant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô. Allô,
allô. Allô, oui.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Quel est ton prénom et tu nous appelles d'où?
Nordine de Sevran.
De Sevran. On t'écoute, Nordine, s'il te plaît, et court, parce que.
Ah, c'est court.
Bah oui, parce qu'il y a encore plein d'auditeurs.
Je suis pas fan de Tariq Ramadan au niveau, on va dire, religieux. Mais je voulais revenir juste sur le terme lapidation qu'a utilisé votre invité.
Oui.
En fait, il avait demandé un moratoire sur la lapidation.
Oui.
En fait, je pense qu'il a fait preuve d'une malhonnêteté intellectuelle, votre invité.
Oui, Sébastien.
Quand il a parlé d'un moratoire sur la lapidation, il parlait avec tous les pays musulmans orthodoxes. Mm. C'est-à-dire de poser le débat, dire voilà que dit la religion sur le fait qu'une personne a... Enfin, la lapidation, c'est dû à un adultère. Mm. Pas que ça, mais c'est en majorité ça.
Oui.
Et qu'il faut au moins 4 témoins.
Oui.
Il voulait poser le débat avec les pays orthodoxes. C'était ça la chose. Mm. Et il n'était pas pour ou contre les nations. Il a dit qu'il fallait poser un moratoire avec les pays orthodoxes. Mm. Donc voilà, l'exemple que a cité votre invité, certainement. Voilà.
Ben merci pour ton intervention.
Voilà,
merci de ta fidélité également. Et auditeur suivant, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Allô. Quel est ton prénom et tu nous appelles d'où, s'il te plaît?
Je m'appelle Adam.
Et Adam, tu nous appelles d'où?
Alors, je vous appelle donc de Toulouse.
Bienvenue à toi et à Toulouse. On t'écoute.
Je vous remercie. Tout d'abord, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on respecte l'innocence, la présomption d'innocence.
Bien
s'il vous plaît.
Sûr. Absolument.
Parce que M. Tariq Ramadan n'est pas ministre. Hein, donc, nous, on connaît, on a un rayon sur tous les politiques français. Entre l'affaire Karachi de M. Sarkozy, avec il y a même des morts d'hommes, et par contre, ça, on oublie très vite, et la présomption d'innocence s'applique.
Mm.
Déjà d'une part. J'aimerais bien faire un petit rappel historique, s'il vous plaît, par rapport à M.
Très court,
Ramadan.
Très court, parce
très
que,
court, hein.
D'abord, un, on va rendre l'antenne, et deux, il y a encore un auditeur.
D'accord. Alors, M. Ramadan, certes, il y a un grand-père qui a fondé donc, les Frères musulmans. Il ne faut pas oublier que les Frères musulmans, à la base, c'était un parti pour la libération de l'Égypte du colon anglais à l'époque. Donc, bien sûr, après, ça tournait au vinaigre, forcément, parce que l'armée égyptienne a pris le pouvoir, notamment donc, en Égypte, et par-dessus le marché, donc il y a eu des ségrégations. Et forcément, les frères musulmans, on va dire, se sont métamorphosés en groupe terroriste. Le terrorisme, déjà, on l'a connu avec les musulmans, et l'affaire des kamikazes, c'est venu après les Japonais. Donc, c'était dans les années 70, avec l'attentat de Berlin, etc., etc. Donc tout ça, ça ne date pas de l'époque de la création des Frères musulmans. Dernier point que j'aimerais bien dire, la première donc, accusatrice de M. Tariq Ramadan Indayari, c'était une ancienne salafiste, et sachez que les salafistes ne portent pas dans leur cœur Tariq Ramadan. Mmh. Parce que Tariq Ramadan, c'est un musulman révolutionnaire qui veut révolutionner l'islam et le rendre plus compatible avec notre temps.
Bon. Ben, merci voilà. Pour ce rappel. Je vais devoir... Merci à toi, merci de ta fidélité. À très bientôt. On va accueillir le dernier auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allô ?
Allô ?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, c'est Ali de Garges.
Ali de Garges, on t'écoute, tu as 30 secondes.
Oui, voilà, moi je rejoins justement ce que vient de dire l'éditeur à l'instant.
Oui.
Moi, ce que je voulais, par rapport à ce que disait Maxime, c'est juste deux poids, deux mesures, c'est-à-dire quand il y a un gramadan aujourd'hui, la France qui nous donne des leçons de morale, qui dit que nous sommes un pays de droits de l'homme, etc. Et en fin de compte, quel que soit, il est présumé innocent ou peu importe, on lui donne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même pas de visite médicale, le cas des médecins de présents disent qu'effectivement qu'il est malade, qu'il nécessite des soins, on le laisse pas effectivement se soigner. Et ce qu'il disait que pour protéger ses victimes, ça fait quand même en 2008. Alors aujourd'hui, ça fait quand même un bout de temps. Ces gens-là se sont manifestés et comme par hasard, aujourd'hui, tout le monde dit qu'ils sont fait violer par état grave. Non, alors qu'il fallait avoir le courage, ce qu'elle disait tout à l'heure la collègue de Toulouse. Qu'elle a connu une personne, pourquoi elle attend comme par hasard aujourd'hui pour dire qu'elle
est... Après, il faut avoir le courage de le faire, attention. Hein. Oui. Bien
sûr. Voilà. Oui. Donc, moi, je voulais savoir, juste par rapport, quand il y a un ministre, monsieur Darmanin, etc., qui pratique ses fonctions, même s'il est présumé ou peu importe, il a connu un gens qui reconnaît le viol et il est en prison. Par contre, c'est pas un gramadon. C'est un prédateur, et aujourd'hui, pas de bracelet, pas de ceci. Il est présumé, innocent, la justice ne s'est pas prononcée. Mais qu'on s'acharne sur lui, trois magistrats.
Oui. Bon, voilà, ben, merci.
Donc, moi, je voudrais juste, que, quand la France dit effectivement c'est un pays de
droit. On a bien compris, je vais devoir rendre l'antenne, cher ami. Merci d'accord. Pour ton intervention.
Je t'en prie.
Je suis pris par le temps, je suis désolé. Un tour de table, je vite. Rapidement, Sébastien Fouan, en quelques secondes, je vais devoir rendre l'antenne.
D'un mot, juste pour dire. Moi, en France, on interdit les organisations nazies qui prônent justement la suprématie blanche ou autre chose. On les interdit et le ministère de l'Intérieur les dissout. Moi, je suis pour l'interdiction des organisations, notamment salafistes, qui prônent la supériorité de la charia sur la loi de la République.
Sophia, un mot, juste pour fermer ce chapitre.
Présomption d'innocence.
Mehdi.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre. Hélas! PSG. Le PSG et le Real, on n'aura pas l'occasion de le commenter.
Oh, dommage.
Eh bien dommage. Je vais juste faire un petit clin d'œil. Voilà, j'espère que le PSG va se redresser bientôt. Voilà.
Il va se redresser.
Et vive le sport, les valeurs du sport.
Un mot sur le PSG Real, vive le sport.
Voilà. Pour moi, ce qui est important, vive le sport et vive les valeurs du sport. Voilà.
Sophia, positive. Paris Saint-Germain va se redresser.
Et enfin,
un grand club n'est pas forcément une grande équipe. Il faut un cadre et du management.
Oui.
Merci à toi Sébastien Foy, élu des Républicains du Bourget dans le 9-3. Merci à Mehdi Amala, responsable digital. Merci à Sophia Kelloki, consultante en communication et rédactrice numérique sur RTL. Merci infiniment, merci à tous les auditeurs. Vous avez été très nombreux, merci à la réalisation à Jérémy. Ciao à vendredi prochain. Ciao.